problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
22h07, bienvenue dans l'After. Évidemment, bonsoir à tous. C'est jusqu'à minuit et dans cette situation un petit peu particulière, After particulier, on va vous parler de la situation en France, en Angleterre. On reviendra également sur les réactions aux déclarations de Jean-Michel Aulas qui n'ont pas manqué d'agacer le monde du foot. On parlera de cette fameuse réunion de mardi à l'UEFA. On en entend beaucoup parler. Est-ce qu'elle doit vraiment nous éclairer? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Et puis on parlera de foot un petit peu aussi parce que ça joue encore dans quelques pays dans le monde. Appelez-nous au 32-16, on va avoir votre avis également sur, tiens, on a décidé de chercher quels étaient les trois maillots qui vous avaient le plus marqué, les trois plus beaux maillots. C'est d'ailleurs une initiative que l'on a reçue, une idée que l'on a reçue sur le hashtag MonAfter. N'hésitez pas à donner vos idées en cette période un petit peu particulière. On a décidé de vous laisser choisir un petit peu des thèmes de l'after, des thèmes de débat, des thèmes de sujets que vous voudriez voir aborder. Et puis à la fin de cette émission, on jouera évidemment ensemble. Et pour nous accompagner durant ces deux heures, un visionnaire qui a tenté de faire barrage à un poison venu d'Italie en 97 lors d'un classique, Pierre Ducrot, c'était Ravanelli. Un autre bonsoir, visionnaire, monsieur. Amateur du seul sport où l'on peut respecter tous les gestes barrières et les distances de sécurité, Daniel Riolo, bonsoir.
Et salut les amis, mais le truc c'est qu'on même ça on peut plus y jouer.
Ouais, même ça on peut plus y jouer. Effectivement. Pourtant, ça
encore, encore moins que le reste finalement.
Non, on est loin. Hein. Puis en plus, comme je joue pas souvent à la volée, je risquais pas d'être trop près de l'adversaire, mais non, même ça on peut pas. Mais j'ai pas compris ton histoire de barrage en 97, c'est quoi?
C'était sur Ravanelli.
Ouais, c'est un peu plus tard, c'est 99.
Ah, c'est 99.
Ouais, j'ai compris l'allusion, mais la date était.
Ah,
pas,
ouais, 97.
Si je me trompe pas, c'est 99.
Ouais, ah, c'était.
Vérifiera.
C'était bouillant. Ah,
heureusement que cette photo n'est bon. Pas dans, la même, dans le même contexte qu'aujourd'hui, parce que tu le fais en direct. Hein.
Ou lui.
J'étais tellement foutu près de sa gueule que.
Ah ouais, ça m'a mis un peu plus loin.
Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, mettre les pieds dans le plat bien comme il faut. On commence par faire un point évidemment sur la situation dans nos clubs de Ligue 1 comme dans le reste des secteurs de la société. Les choses évoluent heure par heure. Morgan Maury de la rédaction RMC Sport est avec nous pour nous faire un petit tour de France de l'organisation de nos différents clubs.
Bonsoir à tous. Salut, plusieurs Morgan. Clubs ont suspendu toutes leurs activités sportives jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas du Paris Saint-Germain, des Girondins de Bordeaux, de Montpellier, Saint-Etienne, de l'OGC Nice. Les joueurs ont interdiction de voyager par exemple à Nice et doivent bien sûr respecter les consignes édictées par le gouvernement. En Paris, il fera un nouveau point sur la situation des entraînements à partir de mercredi. Certaines formations annoncent déjà des dates de reprise, mais pour l'instant c'est peut-être complètement illusoire. On note le 21 mars pour le TFC, le 22 pour Angers, 23 mars pour Rennes. Chaque joueur bien sûr dans ses équipes doit suivre un entraînement, un programme individualisé de préparation physique. À Nice par exemple, seuls les blessés ont le droit de revenir au club pour suivre des soins, mais seulement quand les médecins les contactent. Dans tous ces clubs, bien sûr, les journées de détection n'ont pas lieu, les centres de formation sont fermés, les jeunes reviennent dans leur famille, les écoles de foot aussi n'ouvrent pas leurs portes, et au-delà des équipes pro, ce sont les entreprises, clubs, qui sont obligés de faire avec cette crise du Covid-19. Les salariés passent en télétravail, tous ceux qui bossent sur l'administratif de ces équipes.
Merci beaucoup Morgan. Messieurs, on se posait la question hier avec coach, vous seriez plutôt d'avis de garder les joueurs sous la main, de continuer à s'entraîner par petits groupes, ou alors de laisser les gens, le terme vacances est mal choisi, mais de laisser les joueurs vaquer à leurs propres activités?
Non, moi je suis pour que pour les footballeurs ça marche pour comme pour tout le monde. On demande pas aux salariés où il y a dans une boîte où il y a 200 salariés de venir par groupe de 10 travailler 3 heures par jour. On applique les mesures de précaution qui nous sont dictées et ça doit marcher pareil pour les footballeurs. Et j'ai même envie de dire qui plus est pour des footballeurs. où t'es en contact à l'entraînement, t'as de la sueur, t'as tout un tas de choses, tu prends la douche après, c'est encore pire que pour des métiers où il y a beaucoup moins de contact que celui de joueur de foot, je trouve.
Daniel, pas d'exception.
Ah bah moi, pour le foot comme pour tous les autres domaines de la vie, je suis pour, surtout en ce moment, qu'on fasse exactement ce qu'on nous dit de faire. Les scientifiques, dont les politiques sont le relais aujourd'hui, puisque c'est eux qui font part des décisions. Donc si les scientifiques et les politiques ont décidé qu'il fallait pas, bah, il faut pas. Et puis tant pis si les mecs s'entraînent pas. Ils vont avoir des programmes de coaching à domicile. Ouais. Bah, moi aussi j'en ai un programme de coaching à domicile. Je peux plus faire de sport, donc je vais faire ça à la maison. J'ai ressorti mon vélo d'appartement, mon petit tapis.
T'as un vélo d'appartement, toi?
Ouais.
J'imagine mal sur un vélo d'appartement.
Il y a longtemps qu'il a pas servi.
Ah ouais.
Il y a longtemps, un petit bout de temps là, mais là il va ressortir. Il est pas rouillé, il va encore bien. Voilà, donc je pense que les joueurs de foot vont faire ça et de façon un petit peu plus élaborée que moi à la maison, je pense.
Pierre, c'est dur de repartir après une trêve, quelle qu'elle soit, et encore plus, on peut l'imaginer après une trêve qui n'était pas prévue.
Ça va déjà être dur de faire les programmes d'entretien.
Parce que les programmes physiques étaient prévus pour que les mecs arrivent, surtout dans certains clubs un peu partout en Europe, pour qu'ils arrivent à un pic de forme, justement un peu maintenant. Là, tout va être cassé. Mais bon, après tout le monde est logé à la même enseigne, donc il n'y aura pas de déséquilibre. Il va falloir aménager ça. Quoi, en
une
fait.
Fois de plus, c'est pas le plus important. Voilà. Alors, ouais. si pour répondre à ta question quand même, je pense que ça va déjà être dur d'appliquer les programmes d'entretien qui vont être donnés. Parce que dans ces conditions, c'est compliqué de monter en intensité, etc. Si t'as pas le matériel chez toi pour cavaler sur un tapis de course, tu peux pas aller en salle le faire. Tu peux pas. Peut-être que dans quelques jours, on pourra même pas le faire dehors. Donc ça va être compliqué déjà de faire quoi que ce soit d'intense. De l'entretien à haut niveau. Pas d'entretien comme Daniel et moi on va pouvoir faire courir 25 minutes, une demi-heure, un petit rythme, faire nos abdos et nos pompes. Là, on parle pas de ça. Donc oui, ça sera long déjà cette période d'entretien, et puis ça sera encore plus long derrière la période pour se remettre à niveau. Pour moi, c'est fini. La saison est terminée et t'auras plus des matchs de haut niveau cette saison. C'est fini.
Ouais, mais tu veux dire que quand ils vont imaginons quand ça reprend après, fin avril début
ça te fait
début
ça mai, fait quoi ça te fait un mois pas... ça te fait aller disons presque deux mois d'inactivité normale.
Pas de rythme
bien sûr. Bah regarde quand t'arrêtes pendant 4-5 semaines pendant les vacances pendant les grandes vacances l'été.
Souvent moi je trouve que parfois les matchs au mois d'août ou début septembre
Oui, mais parce que t'as fait une préparation de 6 semaines quasiment avant, ouais. où là t'as beaucoup travaillé et où tu as raison suivant ce que t'as fait comme travail.
Oui, là, tu t'es pas fait un stage commando de deux semaines.
T'auras pas le temps. Quand ça va reprendre, ils vont reprendre l'entraînement. Et puis je suppose que si jamais on veut faire reprendre des compétitions, ça va très vite enchaîner parce qu'on n'aura pas le temps. Donc t'auras pas le temps de te remettre à niveau en 3, 4 semaines.
Oui, au max, t'as une semaine et ouais, globalement, tu risques d'avoir 4 jours entre le moment où ils vont décider éventuellement. Ça risque d'être des matchs où les mecs n'auront pas de rythme.
Bah, pas de rythme, risque de blessure. Honnêtement,
ils en seront tous seuls.
Oui, tout le monde sera au même niveau. Mais il faudra pas attendre de cette. S'il y a une fin de saison, il faudra pas attendre grand chose de cette fin de saison.
On parlera tout à l'heure de la réunion prévue par l'UEFA mardi, qui devrait décider de pas mal de choses, notamment de l'euro. Si je suis ce que tu dis, si je suis ta logique, même l'euro, c'est une mauvaise idée. En termes de qualité de jeu, c'est une mauvaise idée.
Je vais commencer ma réponse par la même que tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois de plus, c'est pas le plus important. Il me semble que honnêtement. Je suis pas compétent, mais j'ai pas l'impression qu'on va sortir de ça en 3 semaines. Donc ça va nous emmener très très loin et on aura d'autres choses à s'occuper, je pense, tous, que d'organiser un euro, que de faire un euro.
Oui, mais eux ils sont obligés d'y penser.
Eux, faut qu'ils prennent une décision, elle doit être orientée vers un report.
Une fois qu'on dit, et ça va valoir pour tous les afters qui vont durer, parce qu'on sait pas combien de temps on va durer, une fois qu'on a dit qu'effectivement il y a des choses beaucoup plus importantes. Ça va être la même chose pour toutes les entreprises, de la petite boulangerie de quartier jusqu'à l'entreprise football qui est une méga entreprise. Tout le monde est obligé
à un moment donné de reprendre,
d'anticiper et d'envisager ça peut pas quand. Pour l'instant, on en a absolument aucune idée, mais évidemment que rien n'est plus important que la situation dans laquelle on vit. Mais on est quand même obligé d'en parler. Enfin, obligé d'en parler. C'est pas qu'on est obligé d'en parler, c'est qu'on peut en parler. On va pas répéter à chaque fois qu'on sait que la situation, que le foot, c'est dérisoire par rapport aux gens qui seront à l'hôpital bientôt. Voilà. Nous, on est là, on va essayer de passer le maximum de bons moments qu'on peut passer ensemble et de voir comment on peut reprendre et s'ils reprennent.
Je te rejoins à la différence près que pour des commerces, le jour où on va leur dire c'est bon, on peut reprendre l'activité.
Voilà, mais c'est pour ça que c'est important que toi tu précises.
C'est pas la même chose.
Tu précises parce que tu connais qu'effectivement un corps ne se remet pas en activité immédiatement au bout de 3 jours, 4 jours, une semaine, que ça va être compliqué parce que tu es resté inactif, tu n'as pas fait la préparation estivale.
C'est ça.
La préparation estivale
à haute intensité qui
te permet de au mois de septembre. Voilà. Là, ça risque d'être un redémarrage qui va être un petit peu bizarre et comme
l'intérêt de faire un euro comme, avec des joueurs.
Je pense que tout le monde va se mettre d'accord pour remporter. Aussi, ouais. C'est plutôt les autres compétitions qui vont être jouées pour qu'elles soient menées à leur terme.
Ouais,
pas pour que ce soit bien, pas pour que ce soit forcément
sur un plan purement administratif.
Pour que ça aille au bout et que ça reprenne comme toutes les autres activités économiques sportives vont reprendre.
Faudra pas en attendre de spectacle, mais au moins on aurait été au bout de compétition.
J'étais en pleine bourre et il me manquait des points pour remonter dans mon classement. Là, mon ascension va être, ça va être net. Quand je vais reprendre, ça se trouve dans un mois sans entraînement, ça se trouve je vais pas être en forme et je vais pas gagner les points qui manquent.
Ou ça se trouve tu vas tomber sur un mec qui sera encore plus en méforme que toi et que t'aurais pas battu avant.
Ça c'est mon deuxième espoir. Ça c'est ce que je me suis dit en dernier ressort. Si je tombe sur un mec qui se remet moins vite que moi, je peux peut-être faire une grosse perf.
Voilà.
Bim.
Donc prépare-toi sur ton vélo.
Donc que ce soit sport amateur ou sport pro.
Tu vas taper contre un mur dans la salle à manger ou pas un peu ?
Compliqué quand même.
Compliqué.
Je t'avoue que j'ai pensé. Mais je crois pas avoir la place quand même.
Messieurs, une information qui vient de tomber, puisqu'on parlait du programme de nos clubs de Ligue 1, c'est l'OM qui a décidé de suspendre tous ses entraînements jusqu'à nouvel ordre. Il avait dans un premier temps été annoncé qu'il s'entraînerait 4 jours par semaine suite aux annonces gouvernementales. L'OM attend la réunion prévue mardi pour envisager son calendrier, la suite du programme de son groupe professionnel. Mais il n'y aura donc pas d'entraînement à l'Olympique de Marseille dans les semaines qui viennent.
Paris aussi, ils ont fait jusqu'à nouvel ordre.
Oui, chaque club, il y a des clubs qui ont décidé de garder leurs joueurs sous la main. C'était le cas de Brest, mais c'est vrai que, comme pour le reste de la société, finalement, les choses évoluent heure par heure et les clubs prennent des décisions. C'est vrai que le président Hérault avait pris la parole vendredi ou samedi, si je ne me trompe pas, pour annoncer cette mesure de 4 entraînements par semaine. Là, il décide évidemment de couper court. Je sais qu'il y a des clubs aussi, j'en ai discuté avec certains entraîneurs de Ligue 1, qui réfléchissent à faire des ateliers à 6, à faire des ateliers à 8 pour limiter un maximum. Mais bon, voilà, forcément, les choses vont être amenées.
Il peut faire ça, Joss, si un joueur a une grande propriété dans le jardin. Il y en a 5
qui viennent
à tour de rôle. Non, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des régions où il n'y avait pas un seul cas. Il me semble que le sud-ouest est globalement épargné. Tu vois pas que Toulouse, ils font une préparation secrète et ils sauvent à l'arrivée parce qu'ils sont plus près que les autres.
En tout cas, Toulouse est invaincu ce week-end.
Ils font une préparation secrète. C'est déjà une info. Ils font une préparation secrète sans rien dire.
Aujourd'hui, il faut réussir à la faire, à la préparation secrète.
Ouais, le stadium en douce.
C'est qui notre envoyé là-bas, notre envoyé spécial.
Le stadium, de toute façon, il est fermé. Donc, s'ils y vont en douce.
C'est Jeannot à Toulouse. Ah, il sera forcément au courant, il a des contacts, Jeannot.
Il
n'est
pas là-bas.
Ils arriveront pas.
Wilfried Templier et Jeannot, effectivement, qui a quelques bonnes infos. Messieurs, on va faire un tour du côté de l'Angleterre. L'Angleterre, où nous attend notre drôle de dame, Julien Laurence. L'Angleterre, forcément, on a envie de s'y intéresser pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on avait continué à jouer hier jusqu'en 6e division. Et puis, on a eu une belle sortie de Wayne Rooney pour en parler avec nous, Julien Laurence. Salut, Julien.
Salut Timothée, salut à tous.
Salut mon
ami.
Alors d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette décision un peu particulière? En France, on a décidé d'arrêter la Ligue 1, mais on a aussi demandé aux clubs amateurs de cesser toute activité. Il n'y a pas de match, il n'y a pas d'entraînement. Et cette décision étonnante de faire jouer des divisions inférieures, je crois qu'il y a un match qui a réuni quasiment 6-8 000 spectateurs.
Ouais, c'est ça. On a eu des grosses affluences dans les 5e et 6e divisions anglaises, puisque les gens qui pouvaient pas aller voir leur club habituel en première ligue ou en championship ou dans 3e et 4e division, ils se sont rabattus sur ces matchs de 5e, 6e division. Donc c'était assez incroyable dans un pays qui est un petit peu derrière la France, il faut le rappeler quand même. On est par exemple encore nous dans à l'état 2 quand vous êtes à l'état 3 par exemple. Nous, c'est un petit peu moins pour l'instant parce qu'on est un petit peu en retard. Les gens se sont dit tiens, on va aller voir du foot. Où est-ce qu'il y a du foot? Dans les deux dernières divisions où on jouait encore, semi-professionnel. On est donc allé dans ces matchs hier après-midi. belles affluences, comme je l'ai dit. Spectacle pas forcément très beau toujours, mais c'était pas le plus important. Et c'est vrai que c'est assez bizarre quand même, par exemple, les championnats amateurs, chez les jeunes, par exemple, peu importe les âges, ont tous été reportés. Chez les adultes aussi, sauf donc 5e et 6e division, assez incroyable que ce soit.
Ouais, messieurs, étonnant.
Aucune cohérence,
quoi dire d'autre.
C'est simplement que comme le gouvernement n'a pas encore officiellement annoncé que les rassemblements de plus de 500 personnes étaient interdits, ils se sont dit on va en profiter un dernier week-end, on va faire une dernière journée ce week-end, parce que la plupart des matchs en plus ont eu lieu, sauf quelques-uns où on a vu il y avait eu des cas de coronavirus, et donc ils en ont profité. Je pense que c'est vraiment le dernier week-end, parce que dès demain ou mardi, Boris Johnson va annoncer l'interdiction de ces rassemblements d'au moins plus de 500 personnes, donc ce sera fini. Mais je pense qu'ils ont voulu se faire un dernier kiff en disant allez, on va jouer ce week-end.
Ouais, et puis les supporters qui y sont allés,
on n'a pas de leçon à donner, hein, parce que je dis aucune cohérence, parce que ça me paraît incohérent, mais c'est exactement ce qui s'est passé nous à une période ici en
France. Oui, exactement. C'est juste qu'on est un petit peu en retard, voilà.
Ouais. Ouais. De toute façon, tous les pays n'ont pas décidé la même chose au même moment et la même chose tout court. Tous ont cru à un certain moment qu'il se passerait ces choses-là ou ces choses-là, et puis en 24 heures, beaucoup de choses ont changé, même en France.
Ça évolue,
le moment où on nous a dit ça n'arrivera pas. Ça arrive, mais ça viendra pas aussi fort. Et puis le jeudi soir de la semaine dernière, non, la Ligue 1 va continuer. Et le lendemain matin, bah non, ça s'arrête. Et les Anglais, Julien était là, non, ils continuent. Et puis donc il faut, je crois, dans l'appréciation qu'on peut avoir des décisions qui sont prises, rester vachement mesuré, parce que tout le monde a un peu réagi au jour le jour en essayant de s'adapter au mieux et surtout en fonction de ce que disaient les scientifiques et les médecins. Donc c'est par rapport à ça qu'il a fallu s'adapter. Donc les Anglais sont peut-être un petit peu en retard et ils ont laissé faire ça ce week-end. Donc ça crée toujours des polémiques dans ces cas-là, et puis ils vont s'ajuster s'ils décident de s'ajuster et si le gouvernement de ce pays décide des choses que nous, bah, on n'a pas réellement à juger au fond, quoi.
Effectivement, et je suis pas tellement surpris que les supporters se soient rués voir ces derniers matchs, parce qu'il y a une sensation comme ça de se dire quand est-ce qu'on va avoir du football frais sur nos écrans, dans nos stades, et
voilà. Écoute, ça reviendra, donc voilà. Oui. Faut être patient, parce que de toute façon on va tous l'être, et ça va être long.
On n'a pas trop le choix, effectivement.
Le week-end, même une nouvelle fois, si c'est pas le plus important.
Est-ce que t'as entamé des nouvelles séries ou pas?
Non, même pas.
Non. Même pas s'y mettre quand même. Là.
Ah non, ambiance.
On en parlera tout à l'heure. Il y a quelques matchs.
Moi, je suis en train de terminer le Drive to Survive saison 2 là.
D'accord.
Moi, je m'étais pas fait un Grand Prix, je pense, depuis 25 ans.
Ça donne envie.
Donc bah voilà, ça m'a donné envie de me remettre à la Formule 1. Série, j'ai beaucoup suivi il y a longtemps.
On va attendre un peu du coup. Là.
Voilà, et du coup maintenant je suis pressé que ça reprenne. Au moment où j'avais recommencé la série, on me dit merde, il est annulé le Grand Prix. Oh, fais chier.
Regarde pas la série.
Là c'était vraiment chaud. Ou... Non, je connais tous les pilotes, je m'y suis remis à fond parce que j'adorais la F1, je suivais il y a très très longtemps. Là maintenant je suis taquet là depuis que il me manque encore 2 épisodes de la saison 2. Mais bon là si ça reprend pas là.
J'avoue que j'ai peur d'être rapidement en manque. J'ai regardé du championnat turc, j'ai regardé une demi-finale sud-africaine aujourd'hui.
Non, alors ça, non. Alors moi, je ne suis pas en manque de foot si c'est du foot qui ne m'intéresse pas. Bah, moi, il faut que ça soit quelque chose qui me parle un peu, quoi.
On en parlera tout à l'heure. Il y avait des matchs.
Je suis désolé. Je ne serais pas coupable de ne pas m'intéresser au championnat turc ou mexicain.
Après,
le championnat mexicain m'a intéressé l'année dernière quand j'ai regardé la série sur Maradona. Mais sinon, je regarde pas, quoi. Mais comme il y avait la série sur Netflix, bah merde, j'ai oublié son titre avec Maradona au milieu. Là. Comment ça s'appelait?
Je sais plus.
Mais si, tu l'as vu, on l'a tous vu.
Mais si, c'était.
Bon, peu importe, tout le monde a compris. Voilà, c'est là le moment où je me suis intéressé au championnat mexicain, parce que sinon. Tu n'as pas vu la série avec Maradona?
Non, j'ai pas regardé.
Oh, mais il faut absolument
que tu regardes. Mythique,
hein, toujours, c'est
mythique.
Extraordinaire.
Ah, moi je bosse, les gars, aussi, j'ai pas le temps.
Julien, un petit mot sur Wayne Rooney qui a haussé le ton aujourd'hui.
Ouais, jolie sortie, hein, faut le reconnaître d'ailleurs de Wayne Rooney qui a signé une tribune donc à la première personne dans le Sunday Times ce matin, ce qui est une première pour lui, qui est assez rare d'ailleurs en Angleterre que les footballeurs prennent la parole de cette façon-là, mais c'était plutôt bien de sa part, j'ai trouvé. Et Wayne Rooney donc qui est revenu en Angleterre depuis le mois de janvier à Derby County en seconde division et qui a accusé le gouvernement anglais, la fédération anglaise, la première ligue aussi d'utiliser les joueurs de foot comme des cobayes en fait pour en les accusant d'avoir laissé les championnats jouer trop longtemps, et que même jeudi soir il explique que ce premier communiqué, rappelez-vous hein, Daniel en rappelait tout à l'heure, on était dans l'after où ça tombe en disant tout va bien, on jouera ce week-end en Premier League sans huis clos, sans rien du tout, pareil en Championship, ce qui est hallucinant, et il dit enfin la bonne décision a été prise, mais jusque là on a joué bien trop longtemps, vous nous avez pris pour des cobayes, et je vous en voudrais toute ma vie, jamais je vous pardonnerai si c'est des membres de ma famille, mes enfants, il a quatre garçons, Wayne Rooney, ou ma femme, ou quelqu'un de ma famille, contracte le virus à cause de ça, parce que j'ai joué trop longtemps, j'étais sur les terrains trop longtemps, alors qu'on aurait dû arrêter le football il y a bien longtemps. Donc, franchement, respect pour Wayne Rooney d'avoir pris la parole de cette façon-là, alors que c'est très très rare ici, hein, je sais pas en France, mais ici, aucun des joueurs, à part un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'est très rare, mais de cette façon-là, aucun joueur ne s'est indigné de la lenteur avec laquelle on a arrêté le football ici en Angleterre, et c'est lui le premier, et franchement pour ça je pense qu'il mérite énormément
c'est
de bien, respect.
C'est un leader, c'est un des mecs les plus
tout à fait
en sélection, c'est bon voilà.
Oui, mais c'est quelqu'un qui avait disparu, tu vois, qui est revenu en janvier, mais qui était en MLS depuis quoi, deux saisons et demie avant ça, et pour que lui revienne avec toute l'importance qu'il a, le nom, le recordman des buts en sélection, tout ce que tu veux, c'est quand même beau que ce soit lui qui prenne la parole comme ça et pas quelqu'un d'autre qui est pas disparu comme lui pendant plusieurs saisons.
Alors sur le fond, moi je le rejoins complètement sur le message, sauf sur le fait que la FA se serait amusée à prendre les joueurs en cobaye. Je pense pas. Honnêtement, comme le disait Daniel tout à l'heure, faut être très très mesuré sur les décisions qui sont prises, parce qu'elles sont pas faciles à prendre, les décisions. Honnêtement, j'aimerais pas moi être à la place de ceux qui doivent les prendre en ce moment, peu importe au gouvernement, dans les fédérations, etc. Je trouve ça un peu excessif quand même. Moi, voilà, c'est bien qu'ils prennent la parole, c'est bien qu'ils disent ce qu'ils pensent, mais c'est un peu excessif sur le terme la fédération nous a pris en cobaye toute ma vie. Ouais.
Ouais, sauf qu'ils ont quand même envoyé les joueurs. Ils ont quand même envoyé les joueurs. Tu vois, sur les terrains à jouer, alors qu'il y avait quand même une situation de crise derrière et qu'ils les ont vachement exposés quand même.
Ouais, non, mais
tu vois, même si.
Et en même temps, tout ce qu'on dit sur Wayne Rooney, ça peut être vrai aussi sur à ce moment-là. S'il y en a un qui pouvait s'arrêter et dire, moi, j'y vais pas, je joue pas, c'était lui. Il avait qu'à pas y aller aussi non plus. S'il sentait vraiment en danger. Si moi demain j'estime que je dois plus venir ici parce que je suis en danger, je vous jure les mecs que je le dirai à mon patron et que je viendrai plus.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On reviendra vers toi et éventuellement, parce qu'il y avait d'autres morceaux choisis dans cette interview. On va faire une petite pause et on revient dans un instant. On continuera de parler peut-être de la façon dont vous, de votre côté, auditeurs, vous appréhendez cette période sans football frais, sans football neuf à vous mettre sous la dent. Et puis on parlera également de Jean-Michel Aulas. Est-il définitivement décrédibilisé? On parlera de la réunion de l'UEFA mardi. Et puis évidemment dans la deuxième heure, on parlera un peu plus de football, ça joue encore dans certains championnats. Tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
22h30, de retour dans l'after pour encore une heure et demie. On est là jusqu'à minuit pour vous parler des différentes facettes de cette situation forcément particulière autour du football et autour des différentes suspensions. Tiens, petite question qu'on va poser à nos auditeurs au 32-16. Messieurs, on a balayer ça très rapidement. Est-ce que vous avez, vous, Daniel, tu disais que tu vas pas spécialement regarder de foot ou re-regarder de foot. Est-ce que vous avez une idée, quelque chose pour pallier un petit peu cette absence, ce manque qui va se faire ressentir assez rapidement pour tous les amateurs de foot que nous sommes?
Moi, j'avoue, j'y ai pas réfléchi encore.
Bah, franchement, pour l'instant, je le prends un peu comme quand mi-juillet, par là, je pars. Pendant un mois, j'en regarde pas. Hein. Quand en vacances, il n'y en a pas, de toute façon. Donc je prends ça un peu comme une coupure de cet ordre-là. Je me suis pas mis dans la tête que pour l'instant y en a plus. Voilà. Après, oui, ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Mais après non. Si c'est pour aller regarder un championnat qui m'a jamais intéressé avant.
Moi je pense que j'y penserai que le jour où ça effectivement ça me manquera. Mais là pour l'instant honnêtement je vous avoue
que
c'est pas
le foot.
Vous êtes pas console.
Le foot il faut que ça m'intéresse.
Non, moi je suis pas console du tout par contre.
Il faut que ça m'intéresse. Ah, console APS.
Ouais.
Oh si, je peux me gratter un match avec mon fils comme ça de temps en temps, mais bon. Si.
Ouais, un match, mais bon, j'ai pas passé l'après-midi.
J'ai tellement joué à une époque que
j'ai jamais été console, moi, donc. Non. C'est pas la solution non plus.
Moi, je sais pas, je me disais que, par exemple, j'ai pas le scénario en tête de tous les euros, par exemple. J'ai pas le souvenir de, je suis capable de donner les vainqueurs à peu près de chaque Coupe du Monde.
Ah, mais tu veux revoir les vieux matchs?
Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas me refaire un euro, je sais pas.
Mais c'est toi,
j'ai pas le souvenir.
Mais toi, ton problème, c'est que ça fait très longtemps que t'as pas vu de foot, parce que comme tu regardes les matchs de Saint-Etienne, t'es plus emmerdé que
Mais finalement, tu vois, tu t'en sors, là, ça fait quoi? 8 mois, déjà?
Ça fait 8 mois.
Imagine les semaines que tu passes sans voir Saint-Etienne perdre.
Vous êtes dur. Encore une fois, on est invaincu nous aussi ce week-end.
C'est vrai.
Messieurs, on va continuer à dérouler un petit peu le fil de cette émission. On voulait parler de Jean-Michel Aulas. Alors, petite remise en perspective. Vendredi dernier, Jean-Michel Aulas avait, dans une interview accordée au Monde, évoqué la possibilité de déclarer la saison blanche si celle-ci ne pouvait reprendre, et donc que le classement de la saison dernière fasse foi pour les qualifications diverses aux Coupes d'Europe. Un discours qui a forcément été perçu comme intéressé, puisque l'OL est 7e de Ligue 1 cette saison et récupérait hypothétiquement la 3e place de la saison dernière. Alors les réactions étaient nombreuses et vives, c'est le moins qu'on puisse dire. La LFP, par la voix de sa présidente et de son directeur, ont renvoyé Aulas dans les cordes, réaffirmant que la décision leur reviendrait et puis que l'hypothèse privilégiée pour le moment, c'était que le championnat puisse se finir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cette fois-ci, le président de l'OL, amateur de coups de com', est allé un peu loin?
J'ai entendu Daniel, j'ai entendu beaucoup de monde. Quoi rajouter de plus? J'ai l'impression, moi, qu'à chaque fois qu'on en parle, finalement, on lui rend presque service, quoi. Donc j'en ai marre. Quand j'ai lu le truc, j'ai failli réagir sur le moment. Et puis j'ai dit non, je passons, quoi. C'est ridicule. Le problème est pas une fois de plus, c'est pas le fond, parce que peut-être que la fédération, que la ligue prendra ce genre de décision. Peut-être qu'ils jugeront de façon collégiale ce qu'il faut faire pour les prochaines, et peut-être que ce sera ça. Le problème, c'est que c'est pas à lui de le dire, et c'est surtout pas le moment de le dire. Voilà, c'est tout. Après le reste, donc pour moi, c'est ridicule, quoi, et déplacé.
Daniel, moi ça fait longtemps. Te suis pas sur Twitter.
Moi, ça fait longtemps que je pense qu'il est complètement dépassé par les événements, que sa com dessert son club plus qu'autre chose. Et là, je pense que il s'est tiré la dernière balle dans le pied qui lui restait dans le pistolet. Je pense que les supporters de Lyon, la plupart, doivent avoir honte, doivent pas se sentir à l'aise avec ça. Ça fait du mal parce que tu peux pas considérer que ton président soit déjà à la base pas un type aimé, mais qui était au moins respecté. Parce que tu disais, c'est un gars qui a fait beaucoup, machin. Mais c'est des mecs qui font beaucoup pour leur club, leur pays, leur patrie, leur entreprise. Le problème, c'est que t'en as plein. Et dans ce plein-là, t'as aussi des mecs qui ont fait... T'as aussi des dictateurs, t'as aussi... Tu vois, l'argument de... Ouais, mais il défend son club. Mais c'est du bidon, ça. Défendre son club, ça veut pas dire attaquer les autres. Ça veut pas dire tenir des propos scandaleux. Ça veut pas dire chercher à enfoncer les autres. Ça veut pas dire essayer d'attaquer tout le temps les autres. Parce qu'encore une fois, des mecs qui ont défendu leur entreprise, leur pays, avec des moyens illégitimes ou en étant agressif, véhément, en cherchant la merde, tu vois, voilà, ça veut rien dire. Il défend son club. On peut pas que la fin justifie pas les moyens. On peut pas faire les choses coûte que coûte. Et là, moi, je pense qu'en fait, il sait qu'il est allé trop loin. Je pense qu'il sait que ses propos sont scandaleux. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que moi, je pensais qu'il allait s'arrêter. Parce que la crise est majeure.
Il a un peu rétro-pédalé, effectivement.
Et lui, mais le problème, c'est qu'il continue. Et quand il continue, il s'enfonce en attaquant héros. Mais d'une violence, les attaques sur héros, c'est violent. Ouais. Ce qu'il a encore dit sur moi, sur Twitter, c'est gravissime. En mettant, comme il le fait à chaque fois, toujours le nom de notre patron. Alors, comme les gens ne le savent pas, peut-être... Moi, j'ai pas peur, je vais le dire. Il met toujours en copie notre grand boss Alain Veil. Mais qui fait ça? Mais quelles sont les méthodes d'un homme qui fait ça? C'est quoi la mentalité d'un mec qui fait un truc pareil?
Quelle est l'utilité, surtout, quoi.
C'est-à-dire, mais est-ce qu'on se rend compte du scandale permanent qui est devenu Jean-Michel Aulas? C'est hallucinant, en fait. Il menace d'attaquer. Il a attaqué héros en ressortant les phrases sur ses propositions pour le foot. Ce qu'on avait tous fait, d'ailleurs. Parce que tout le monde peut être critiqué. Moi, je peux être critiqué pour ce que je dis tout. Mais là,
C'est pas le propos d'aller l'attaquer là-dessus.
Les propositions des routes est beaucoup moins grave que ce que Jean-Michel Aulas a dit.
Au moins, c'était fantaisie, ça faisait rire.
Et ça n'avait aucune importance.
La façon qu'il a eu. Alors ouais, toi tu appelles ça un rétropédalage parce que le mec sent qu'il tout le monde, parce qu'en plus, il faut mea culpa. Quand on a présenté ça,
un peu ses propos.
Quand on a présenté ça jeudi soir et qu'on a parlé vendredi, franchement, et je m'excuse auprès d'eux, j'ai dit que des présidents comme ceux de Saint-Étienne ou de Lille pouvaient être d'accord avec lui. J'avais entendu ça, j'ai mal entendu, faux. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde.
Ah, mais je suis pas étonné, moi.
Je sais, tu m'y fais penser, parce que c'est pour ça que je te regarde, Timothée, parce que.
Saint-Étienne, forcément.
Voilà, Saint-Étienne. Saint-Étienne, j'ai évoqué le fait que les présidents de Saint-Étienne pourraient, sur ce point-là, être d'accord avec lui. Eh bien, je m'en excuse. En plus, j'ai reçu un message de Bernard Caasso.
Xavier Tuilot a fait une communication en disant que pas du tout.
Voilà, et j'ai même dit, mais je suis sûr que jamais la moitié d'un supporter stéphanois acceptera un truc pareil. Là-dessus, j'avais raison. Et en plus, les dirigeants m'ont infirmé ce que j'ai dit et je les remercie et je m'excuse auprès d'eux. Ils n'ont jamais pensé ça une seconde. Et les Lillois, pareil, de la même façon. Tout le monde lui est tombé sur la gueule. C'est assez grave de se retrouver tout seul. Déjà, il faut le savoir quand même, ça fait des années qu'il est tout seul. Que dans le monde du foot, plus grand monde le suit. Il y a toujours un peu Kita qui est un peu bizarre. On ne comprend jamais vraiment quels sont ses intérêts, ce dont il a envie. Kita, c'est un personnage un peu lunaire. Bon, là, visiblement, il s'est mis dans la tête d'aller défendre Aulas. Je sais pas, il va avoir un business avec lui, j'en sais rien.
Là-dessus?
Ouais, il cherche à jouer les monsieur bon service, là, comme on dit.
Médiateur, ouais.
Médiateur, voilà. Mais sinon, il s'est fait tailler par tout le monde. La charge de Legrette ce matin, maintenant fermez vos gueules. C'est pas possible ce que vous faites, mais le fermez vos gueules, il peut pas dire ça à Héro. On peut pas dire de fermer sa gueule à Héro. Héro, c'est normal qu'il réponde. Il peut pas se laisser marcher dessus comme l'autre lui a marché dessus.
On a tous eu envie de répondre.
Et l'autre, en plus, il veut l'attaquer en diffamation. Mais...
Ouais, non, mais.
Oh putain.
Ouais, non.
Non, là, moi je pense que même au club, moi je suis sûr. Enfin, là, c'est mon avis. Je n'ai aucune info là-dessus. Je suis sûr que Juninho doit trouver ça également scandaleux. Non, un type comme Juninho, il peut pas suivre. Je suis sûr qu'il suit pas. S'il le suit, c'est parce que machin, président. Hein. Mais je suis sûr qu'au fond, il peut pas.
Messieurs, Michel nous a appelé au 32-16. Et juste après, Michel, il est supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, d'after.
On va écouter ton avis, mais juste après, on a un supporter de l'OL, Marvin, qui nous a appelé. On va commencer avec Michel. Michel, quel est ton avis, justement, sur cette prise de position de Jean-Michel Aulas?
Alors, d'abord, je voudrais féliciter l'after. Franchement, vous faites du sacré boulot. Ma femme, elle en peut plus que je regarde l'after, elle veut divorcer.
Non, on veut pas. Il faut plutôt qu'elle nous écoute aussi.
Michel, il y a le hashtag #MonAfter. Tu dis à ta femme de nous dire les sujets qu'elle veut qu'on aborde. Voilà. Si possible, un tout petit peu associé au football, mais on le fera.
Franchement, c'est du lourd. Passe un peu la pommade, mais. Non, alors, d'abord, la crise du coronavirus, elle est beaucoup plus grave que l'on ne croit. Hein. Voilà. Et donc là, il fait le malin, il joue perso sur un truc aussi grave. Enfin, franchement, je suis pas anti-lyonnais, c'est pas le problème, mais il s'est mis soi-disant tous ses alliés à dos dans Nathalie Bois de la Tour, je crois.
Oui, bien sûr.
Il a choqué tout le monde. Il vieillit pas très bien. C'est pas sympa ce que je dis. Il vieillit pas très bien. Et voilà.
Oui,
et
c'est pas voilà. Sympa, ouais. Mais il y a quand même un petit peu de ça. Il y a un truc de je perds les pédales, je deviens nerveux, cette addiction à Twitter, et j'en sais quelque chose, ça peut mener à des dérapages. Je le sais, je le dis, et moi je suis plus jeune. Donc ça veut dire que quand j'aurai son âge, je serai complètement à la rue. Il est beaucoup plus frais que moi.
Voilà, c'est là où je voulais en venir, Michel.
Michel
vient de dire, cela dit, c'est un bon président. Est-ce que tu fais partie de cette frange des amateurs de foot, du foot français, qui ont toujours eu un certain respect pour le travail accompli et qui aujourd'hui se disent,
Trop, c'est trop aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai très franchement, là, j'ai plus grand chose d'estime pour lui.
Vous savez à qui me fait penser donc Aulas, à Tapie sur la fin, à Bernard Tapie sur la fin.
Oui, un peu caricature de lui-même, c'est ça que tu veux dire.
Tapie, il a pas vraiment eu de fin puisqu'il a été fauché en plein vol.
Tout le monde, etc. Quoi, voilà.
Merci Tapie, Michel. Tapie, il a été fauché en plein vol, il n'a pas vraiment eu de faim.
Non, mais au bout d'un moment, c'est... je ne suis pas sympa, je ne suis pas gentil, ce que je veux dire. C'est un peu les vieux types qui ont été importants et puis qui cassaient les pieds à tout le monde, qui donnent leur envie sur tout et que plus personne n'écoute, en fait.
Qui ont besoin d'exister.
J'ai dit tout à l'heure, au club de Lyon, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord, même les supporters lyonnais. Hein.
Ah mais moi, je suis sûr qu'une grande majorité des supporters lyonnais ont honte de ce qui s'est passé là.
Ouais,
et déjà, beaucoup avaient honte de tous ces trucs sur Twitter, de ces attaques ad nominem sur des gens, comme ça. Justement,
merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelés. On va retrouver Marvin. Marvin, 43 ans, supporter de l'Olympique lyonnais. Salut, Marvin.
Salut les gars.
Salut Marvin.
Merci de nous appeler. Justement, toi, c'est le président de ton club.
Marvin, il n'y a que des vedettes qui s'appellent Marvin. À part Marvin Martin, parce que Marvin Gaye, Marvin Aguilera, c'est beaucoup.
Oui, très bien. dissertion intéressante. On va revenir peut-être à ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Marvin, toi, donc, c'est le président du club que tu supportes. Quelle est ta position?
C'est une honte. Tout simplement. J'ai pas de mots. C'est-à-dire que je crois qu'ils se rendent pas compte de la gravité dans laquelle la situation dans laquelle on est. Il y a 127 morts aujourd'hui, d'accord, du coronavirus. Et sa principale préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir bénéficier d'une place européenne la saison prochaine. Mais attendez une petite seconde. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand tu auras l'hymne de la Champions League l'année prochaine, mais j'aurai honte. Je ne pourrai pas regarder un match. Mais comment, alors qu'on a fait une saison de merde, comment est-ce qu'on peut... Il pourra se regarder dans une glace et être fier d'être arrivé champion l'année prochaine. Mais il y a des morts.
Alors, en fait, tu veux que je te dise, Marvin, si jamais il avait eu la décence et l'intelligence de ne rien dire... Et que derrière, la Ligue, la Fédé aurait statué que...
Ah ouais, s'ils avaient décidé ça...
En fait, l'année prochaine, t'aurais été juste heureux de faire la Ligue des Champions. Maintenant qu'il a parlé, effectivement, je te rejoins, quoi qu'il arrive, peu importe quelle décision va être prise, si elle est favorable à l'OL, tout le monde dira que c'est parce qu'il a parlé, etc., et ça va tout gâcher. Donc tu as raison, c'est trop tard. C'est trop tard.
Si je peux me permettre... S'il fait ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il sait qu'il y a peut-être 1% de chance que ça aboutisse. Mais ce pourcent de chance, il veut le tenter en ouvrant sa bouche en quelque sorte. Parce qu'il sait que s'il dit rien, de toute façon, c'est impossible. Et là, c'est mettre la pression. Parce qu'il est en train de parler de Toulouse, de Dijon, de Saint-Etienne, de Nîmes. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Faut être honnête. Ouais. Ce qu'il veut, c'est Lyon. C'est tout. Ce personnage... qui a été ultra important et qui a tout fait pour notre club, ça faut pas lui enlever, parce qu'on est passé, on est parti de D2 et aujourd'hui on est clairement économiquement, il le gère de main de maître et c'est presque une multinationale. Mais faut pas oublier, j'aime bien le dire, que sportivement il nous gère comme une équipe de nationale. Voilà. Mais maintenant le truc c'est que il a fait très très bien pour Lyon, il a tout fait pour Lyon, mais maintenant il faudrait qu'il mette le pied au temps et qu'il vende le club, parce que pour moi il n'est plus l'homme de la situation. Sportivement on est zéro. Il se taraude là à nous raconter, il nous bassine avec ses 23 coupes d'Europe, des ligues Europa, des tout ça, mais on a fait quoi? On a fait une demi-finale. Donc stop à un moment donné. Jean-Michel Aulas, là il a été trop loin et pour moi stop. Point barre.
Merci beaucoup Marvin d'avoir été avec nous. En son propre sein, Jean-Michel Aulas arrive à faire des agacés, des déçus. On sent pas mal de déception dans la colère de Marvin. On te souhaite une belle fin de saison quand elle se finira. Avant
et
cela,
comme il a attaqué Kyo aussi.
Ouais.
La violence des propos sur Kyo, à lui reprocher. Ouais, mais le lundi. Tu ne voulais pas arrêter la Ligue 1 parce qu'on allait perdre. Ben oui, mais à ce moment-là, il n'y avait pas eu de mesure annoncée, il n'y avait rien. Donc, on pouvait envisager de continuer ou pas. Les Anglais, le lendemain, ils disaient encore on va continuer, tout était programmé.
C'était jeudi soir, et puis
une fois de plus.
Et ils ont décidé le lendemain. Mais comment il peut attaquer.
Plus, être à la place des décideurs en ces
comment
cas-là,
il peut attaquer Kyo là-dessus. C'est là où, en fait, pour moi, il est allé au-delà du dérapage. C'est que dans la foulée, il s'est mis à flinguer tout le monde. Kyo, Héro, encore une fois, moi, je crois il a dû flinguer aussi Duluc, comme d'habitude, s'il a son trio, là, où il envoie.
Il a été effectivement pointé du doigt. On va revenir, Daniel, dans un instant pour parler notamment de ce que vous espérez de cette réunion de mardi à l'UEFA. On en entend beaucoup parler. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en réalité. On va voir évidemment ce que vous souhaiteriez potentiellement un peu de football fiction. Et puis, vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous expliquer comment vous, de votre côté, vous envisagez de pallier l'absence de football. Voilà, est-ce que vous voulez regarder des vieux matchs, jouer à la console, regarder des championnats exotiques, re-regarder des vieilles compétitions internationales. Vous nous appelez au 32-16 pour participer. On revient dans un instant dans l'after. C'est jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
22h48 de retour dans l'after. On continue à parler des suspensions, évidemment, des différents championnats de football, des conséquences que cela va avoir. Alors justement, en parlant des conséquences, messieurs, on attend tous cette fameuse réunion de l'UEFA mardi qui est annoncée comme extrêmement importante. On en parlait un petit peu en préambule tout à l'heure. Parmi les annonces qui pourraient être faites, dans les tuyaux, il se dirait quand même que l'euro pourrait être reporté d'un an. Pour vous, c'est une condition, c'est une décision, on va dire, qui s'impose d'elle-même ?
Bah, ça paraît compliqué de faire différemment. Alors, si on peut faire différemment, c'est l'annuler complètement. Pourquoi pas, après tout ? Pas d'euro, voilà. Pas d'euro cette année-là. Ce sont des conditions particulières, dramatiques. Et pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait pas quelque chose qui, finalement, n'est pas vital, voilà, et puis on fera le prochain euro quand tout ira beaucoup mieux. Ça peut être aussi une solution.
C'était un peu le sens de ma question. Est-ce que pour toi, par exemple, la priorité ce serait de finir les saisons dans les différents championnats, ou la priorité absolue c'est l'euro, quitte à finir les saisons?
Si possible, parce qu'on ne sait pas où on va, mais si possible, ce serait plutôt de finir les saisons domestiques, voilà, avec les clubs et par contre la Ligue des Champions, la Ligue Europa, parce que ça a des conséquences sur la suite. L'euro me semble pas si nécessaire que ça, voilà, ou en tout cas c'est pas vital du tout, quoi. Enfin, rien de lire.
L'UEFA est souvent une institution qui fait aussi bien attention à ses partenaires et à l'équilibre financier qui est le sien.
C'est la logique, parce que quand t'es organisateur de compétition, déjà tu vas tout faire pour finir celles qu'on commençait et pour pas démarrer une qui n'a pas par définition commencé et que tu peux reporter. Les impératifs économiques, ou plutôt les problèmes économiques que ça va susciter, bah de toute façon t'en as déjà d'autres qui sont en cours. Donc tu vas commencer par déjà régler ceux qui sont en cours, et puis ceux-là, bah, tu vas les décaler. Et un report, ça ne veut pas dire annulation. Tes partenaires, tu les gardes pour organiser ta compète.
Même si tu annules un euro, Daniel, économiquement, l'UEFA peut s'en sortir, on est bien d'accord.
Oui, l'UEFA évidemment peut s'en sortir, mais ils peuvent aussi le décaler à l'année prochaine. Oui. Ils trouveront... De toute façon, quand tu as une difficulté de ce genre-là, il faut trouver des solutions. Donc comme il faut trouver la solution, ils vont se réunir mardi. D'après ce que j'ai entendu, j'en parlais vendredi déjà ici, je disais qu'il y a une volonté d'être dans l'union sacrée et de vouloir trouver des solutions tous ensemble. Pour ce qui est de la fin des championnats, peut-être que dans les autres pays aussi, il y aura les problèmes que nous on vient d'avoir avec Olas, où chacun va essayer de tirer...
Ça a déjà été un peu le cas en Angleterre. Il y a la présidente de West Ham qui
mais... Tu vois bien qu'elle arrivait. Ouais, mais tu vois bien qu'elle arrivait
à la 16e place.
Tu vois bien qu'elle arrivait, elle est restée toute seule et elle aussi s'est fait défoncer.
Bien sûr.
Donc je suis pas sûr qu'il y ait au final une jurisprudence pour tout le monde et que l'Espagne décide d'un truc, l'Angleterre d'un truc. Enfin, ce serait bien d'ailleurs qu'ils se mettent tous d'accord en fonction des journées de championnat disputées.
Oui et non,
bah, d'accord. Mais en même temps, après, tous les pays ne sont pas les mêmes.
Voilà, faut s'adapter aux pays surtout.
Que les ligues en interne décide de ce qu'elles vont faire. L'UEFA va décider si ça reprend. De toute façon, tout le monde dit 2 mois, donc on va dire début mai ou mi-mai, d'inventer une solution, un play-off ou un Final Four pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Enfin, plutôt un Final pas fort, mais Eight. Et puis voilà, ou en faisant sur un seul match. Et puis elle va dire, vous démerdez-vous pour faire 2 matchs par semaine pour finir les championnats.
Finir le championnat.
Et mardi, ouais, la réunion est très très importante. Et je le répète, il y a une volonté vraiment de sortir par le haut et de se mettre tous d'accord.
Est-ce que l'UEFA peut s'imposer en patron? Parce que par exemple, ça fonctionne pas du tout pareil. Par exemple, en Espagne, quand le championnat reprendra, dans quelles conditions, si on l'arrête après les 19 premières journées, c'est la fédération qui tranche. C'est pas pareil en France, c'est pas pareil en Italie.
Chaque pays reste dans ce qu'ils font structurellement pour prendre des décisions. Ça regarde personne à la limite. Ils finissent leur championnat. Si à la limite, il y en a qui n'ont pas envie de le finir et de faire différemment. Ils font ce qu'ils veulent. Là où il faut que ce soit effectivement harmonisé et où l'UEFA va décider, c'est les compétitions européennes. Et une fois de plus, moi je me dis qu'un euro, surtout l'euro qui allait arriver, moi je suis pas fan. Là, voilà, mais ça c'est autre chose. Mais
dans les différentes villes européennes.
Ouais, voilà. Moi je pense qu'en plus avec ce qui se passe, cette formule là, je serais pas outré qu'on me dise que en 2020 il y a pas d'euro. Voilà, c'est comme ça. Et le prochain euro il sera en 2022 et on profitera en 2022. Et en attendant on a des choses à s'occuper. Ouais, c'est pas un problème. En 2024, pardon.
Ah genre ils sautent complètement.
Ils sautent. Parce que tu vas le rajouter dans les saisons. Ça va être encore
l'avantage.
Toutes les décisions, on sera obligé de les accepter.
L'avantage de 7 euros dans plusieurs villes, c'est que t'impactes pas un pays qui a construit des stades juste pour toi. Et voilà.
Non, ça c'était bien parce qu'effectivement les pays arrivent à supporter.
Et l'annuler, l'impact est de l'annuler est finalement moindre. Moi, ce qui me dérange un petit peu, enfin comme tu le dis, ce qui sera décidé, on l'acceptera et les joueurs surtout l'accepteront. Pour nous, c'est pas grave. C'est que tu vas te retrouver encore avec une saison. Potentiellement que tu vas finir très tard, très bizarre, donc une trêve un peu bizarre aussi parce que tu pourras pas reprendre après en octobre. Hein, on va reprendre les championnats à peu près normalement. Une compétition à nouveau dans cette saison qui va s'ajouter. Je sais pas, moi ça me paraît un peu compliqué quoi.
Ça paraît compliqué, mais on sait aussi que financièrement c'est une manne d'argent et que c'est souvent ce qui régit. Les décisions.
Alors, c'est une manne d'argent pour qui? Pour les pays qui vont recevoir, qui vont pour l'UEFA. Moi, je pense que l'UEFA a les moyens de se passer d'un euro. Quoi.
Ça, on n'en doute pas qu'ils ont les moyens.
Ça, c'est autre chose. Mais donc, ne disons, c'est pas une question de moyens. Alors, c'est une question de profit, de rapport à l'argent qu'auront l'UEFA par rapport à ça.
Dernière question. Il y a des dates qui sont bloquées pour une Coupe d'Afrique des Nations l'hiver prochain. Oui, on pourrait imaginer une trêve hivernale à rallonger en demandant justement, au prochain championnat d'être aménagé aux compétitions.
Et tu fais l'euro en même temps que la CAN?
Faire l'euro, sur le mois de juillet, un Boxing Day, en plein euro.
Franchement,
tout est envisageable. Hein.
Ouais, vraiment, je sais pas.
Envisageable. Tu mets un peu à mal ma théorie. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a la CAN. Pourquoi il y aurait pas un euro après tout?
T'as raison. Il fait des propositions. Tu veux pas y aller mardi là? Parce que t'as plein d'idées là finalement.
Ah mais moi, je pense juste que c'est
fini. Je pense qu'ils les ont un peu.
Vas-y à la réunion. Hein. Propose des trucs.
J'ai fait, je crois, deux interviews avec lui. J'ai très très peur de lui.
Pourquoi?
Ah, il a un truc glaçant, il me fait très très peur. J'ai peur de Seferin, c'est pour ça que je veux pas y aller.
Physiquement, il te fait peur?
Ah ouais, il me fait flipper.
Beaucoup, je comprends pas ce qu'il a.
T'as déjà été en sa présence?
Pas en sa présence.
Il a un charisme, une certitude, il remplit une pièce, ça y a pas de problème. Quand il rentre dans la pièce, il impose quelque chose.
Ah bon?
À proximité, il y a un truc. Un truc assez glaçant, je t'assure,
Il est tout fin?
Je suis tout fin aussi.
Je sais. Non, toi t'es baraque.
Oh, il manquerait plus que ça.
Il est tout fin.
On va rejoindre Yaya qui nous a appelé.
J'ai entendu dire au Moloko, on disait que t'avais un décor les mieux bâtis de l'établissement.
N'importe quoi. C'est parti. On salue évidemment le Moloko qui du coup ferme
du
minuit.
Coup, le Moloko est fermé.
Donc, du coup,
le Moloko est fermé. Ouais. Bah, boîte de nuit.
On va rejoindre Yaya qui a fait le 32-16 qui nous appelle. Salut Yaya, supporter de l'OM.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien, très bien.
Salut.
Alors, justement, parle-nous un petit peu de ce que ça représente pour toi, ces annulations, ces suspensions. Peut-être que tu es footballeur amateur. Comment ça se passe?
Déjà, d'un point de vue professionnel, personnellement, j'ai un foot en salle. C'est ma société. On a eu une demande monstre cette dernière semaine. Tous les entraînements étaient annulés. Donc, tous les fans de foot nous ont appelés. On a même eu des gens qui nous ont dit « Ouais, je te paye plus cher, mais juste ouvre-nous une heure pour qu'on puisse exercer notre passion ». Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire. On a un peu dérogé à la règle. On a ouvert et on a fait du non-stop. Et là, cette semaine, vraiment, ça a été avec l'annulation de tout. On a eu des demandes, mais j'aurais pu remplir 6 stades quoi si j'avais pu chaque heure tellement qu'on a eu des appels. Et c'est là qu'on ressent l'importance du football en fait dans notre vie. Et c'est un truc vraiment, c'est vraiment incroyable quoi. À quel point ça peut manquer aux gens.
Et toi, pour ton business, la longueur de l'arrêt, tu peux supporter quelques semaines, plusieurs mois.
Ouais, ça va être quand même assez compliqué parce que on a. Alors c'est vrai qu'on a un peu de trésorerie, mais c'est vrai que là,
pour un loyer important, j'imagine.
Effectivement, voilà. Donc ça va être très compliqué. Mais bon, après la santé avant tout, donc on est obligé de se plier aux règles. Mais c'est vrai que d'un point de vue strictement professionnel. Ça va être très compliqué, donc on va voir ce que l'on peut faire, comment l'État peut éventuellement nous aider, si elle peut nous aider, et sinon, je sais pas. Franchement, honnêtement, ça, par contre, c'est un gros point d'interrogation, et on a un peu peur pour l'avenir, mais...
Mais on n'a pas le choix.
Ouais. On en est tous là, Yaya. Merci beaucoup. Merci d'être venu témoigner sur notre antenne. On te souhaite le meilleur pour ton business et puis pour continuer à vivre ta passion. On va revenir dans un instant. Il y aura les infos, évidemment, à 23h avec les dernières informations sur la situation actuelle et sur les municipales. Après cela, deuxième heure de l'after où on parlera de la Russie, de la Turquie, du Mexique. Ça joue encore au football là-bas. On parlera également de vos maillots préférés. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'After Foot. RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Rati, là, tu la baraque, et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
23h06, la deuxième heure de l'after. On va vous parler des championnats où on joue encore au foot en Russie, en Turquie, au Mexique, au Brésil, au Chili. On va vous parler également du top 3 des maillots que vous préférez. C'est un sujet que vous avez choisi sur le hashtag MonAfter. C'est vous qui donnez vos idées de sujets dans l'after. Et puis il y aura un quiz à la fin de cette heure. Tiens, on vient d'entendre Cédric Villani là, avec le fameux Barca. Je sais pas si vous avez lu.
C'est pas Villani le Barca.
C'est pas Villani, si.
Non, Villani, c'est le
Parc. Ah oui, Patrick Lelay.
Patrick Lelay
pour.
Patrick, lui, c'est je vais voir au Parc Saint-Germain.
Au Parc Saint-Germain, effectivement. Je vous conseille l'excellente interview de nos confrères de SoFoot sur leur site internet, justement de Villani, qui a accepté de se soumettre à une interview dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas. Et le tout donne quelque chose de très consistant et vraiment pas mal. Ça vaut vraiment le coup.
Sans ironie.
Ah non, sans ironie aucune. Non, c'est une vraie chouette interview réalisée par SoFoot auprès de Villani. Voilà, on va vous parler, on vous l'a dit, du football là où ça joue. Ça joue encore en Russie à huis clos, ça joue en Turquie à huis clos, au Mexique, au Brésil, au Chili. On est avec Vincent Tanguy qui est spécialiste du football russe. Salut Vincent.
Bonsoir à tous.
Salut Vincent.
Salut Vincent.
Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quelle mesure le football russe continue, comment ça fonctionne rapidement?
Eh bien, tout simplement, en fait, en Russie actuellement, on est dans un cas un peu de coronavirus un peu plus tranquille. En gros, on va dire que qu'actuellement en Russie, les statistiques sont relativement faibles. On est actuellement, en tout cas aujourd'hui, à 63 cas, en tout cas pour les statistiques officielles, et pas du tout de morts. Donc il semblerait qu'en fait, en Russie, on est un petit peu... le sentiment que voilà, ça se fait un petit peu de manière tranquille. On essaye de passer un petit peu la situation de manière très calme. Et donc en fait, ça n'empêche pas le maintien des matchs et ça se joue alors globalement tranquillement, mais voilà, dans certaines régions, il y a quand même des huis clos ou bien
des stades limités à 5000 spectateurs.
Des huis clos partiels, ouais.
Ouais, tout à fait.
Depuis,
j'ai l'impression qu'en Russie, si on dit aux gens vont rester à la maison, ils vont le faire.
Oui, tout à fait. Ouais, je pense
c'est discipliné. Ouais.
Ils sont à écouter.
Pas pourquoi, mais ils diront pas non, ouais. C'est bidon tout ça. J'ai envie d'aller me balader. Ouais. Pas pourquoi. Ils vont pas dire non, c'est un complot.
Quand même pique-niquer sur les quais.
C'est le gouvernement qui a fait ça exprès et tout. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais.
Je suis
d'accord.
Ils vont pas faire ça.
C'est le ressenti qu'on a ici. Est-ce qu'on se trompe?
Oh, il doit y avoir des frondeurs en Russie, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de frondeurs.
Je pense que dans ce domaine, on est un peu champion du monde.
Vincent.
En matière de conneries, oui. On est champion du monde. Ouais. Comme de foot, d'ailleurs.
Les latins, en général. Latins.
Ah, non, en Italie, en Espagne, une légende.
Ça a mis le temps en Italie, hein.
C'est une légende. Ah, non, ça a mis le temps, c'est venu très très vite.
Vincent, justement, parle-nous un peu de ce championnat, des matchs les plus attendus, des prestations d'Adil Rami.
Alors oui, Adil Rami est bien au FK Sochi. Il est arrivé en effet cet hiver un peu à la surprise générale. Et puis
le patron du club est un ami de Poutine, non, c'est ça?
Alors le club en fait est comment est l'ancien Dynamo Saint-Pétersbourg qui a été transféré
à Sochi.
À Sochi, avec toutes les nouvelles infrastructures que
dispose le stade olympique. Il paraît qu'il y a beaucoup de blé à Sochi, on veut en faire une sorte de Monaco russe, c'est un peu ça?
Alors c'est vrai que c'est une comment en fait c'est le centre un peu sportif de comment du pays avec beaucoup d'infrastructures, notamment sur le patinage artistique, un super stade, hein, on l'a vu durant la Coupe du Monde.
Un circuit de F1.
Il y a un circuit de F1, absolument. Il y a pas mal d'activités. Et puis il y a aussi une station de ski aussi. Il y a les stations de ski de Sochi qui sont à côté.
Donc il y a un énorme tournoi de poker en ce moment là-bas. Un des rares derniers endroits où ça joue encore.
Donc on est dans une région en effet qui se développe sportivement. Après en termes de football, c'est pas forcément la zone la plus
c'est une équipe qui est relégable et en gros la mission qui est donnée à Rami, c'est d'essayer de sauver le club.
En fait Rami, il est un petit peu pour ça, mais sauf que actuellement il joue pas. On a joué à peu près 3 ou 4 matchs, je crois, et donc il est hors de l'équipe. Donc ceux qui sont actuellement en train de sortir le club de la zone rouge, parce que à l'heure où on parle, le club est sorti avec 3 matchs enfin 3 victoires consécutives.
Ah, le club est sorti. Je savais pas que le club était sorti de la zone rouge.
Il est sorti de la zone rouge. Et là, en fait, c'est plutôt des joueurs comme Kokorin, Alexander Kokorin, qui sortent un petit peu le club un petit peu du trou. Donc ça joue plutôt pas mal enfin en ce moment.
Et pourquoi il joue pas? Lui, il est plus blessé, je crois.
Il n'est pas prêt, peut-être, physiquement.
Oui, alors, c'est vrai que moi aussi, je me pose la question, en fait, de savoir un petit peu pourquoi il joue pas. Il y a eu un documentaire sur Kokorin où on l'a vu à l'intérieur. Donc, il a l'air de s'entraîner avec le groupe.
Parce qu'en plus, ils l'ont pas pris pour pas le faire jouer, parce qu'ils l'ont fait venir et ils lui ont mis un beau contrat, quand même.
Bah, j'imagine, oui. Et puis, en tout cas, ça a fait un effet de com' important. Le SK Sochi, on n'en parle pas forcément, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas on n'en parlait pas du tout, et là c'est vrai que ça a ramené, avec l'arrivée en plus de Kokorin et la manière dont il est arrivé, ça a fait parler en tout cas du club, donc tout positif pour le club.
Vincent, un monument du foot russe en danger, c'est le Rubin Kazan qui est relégable actuellement.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ils ont gagné ce week-end. Ça a été difficile. Ils ont fait appel à Leonid Slutsky pour reprendre l'équipe cet hiver. Il a fait un bon mercato d'hiver, parce que le mercato d'hiver est assez long en Russie. Hein. La trêve hivernale est longue, donc ça permet aux équipes de bien pouvoir se renforcer et de pouvoir bien s'organiser et s'entraîner. Donc il a plutôt pas mal travaillé, notamment durant les matchs de préparation. Maintenant, il faut du temps pour que la sauce prenne et en effet il y a besoin cruellement de points. Donc là ils ont pas trop mal, ils s'en sont pas trop mal sortis aujourd'hui, mais il faudra montrer beaucoup plus.
Un dernier mot, Vincent, sur le Zénith. C'est l'actuel leader de la première ligue russe. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui a étrié Oural, je pense que ça se prononce comme ça.
C'est ça.
Hier, avec le premier but de Malcolm.
Tout à fait. Tout à fait. Malcolm qui revenait de blessure. Hein. Il a mis beaucoup de temps à revenir. La trêve hivernale est arrivée, donc ça lui a permis en plus un petit peu plus de se préparer. Il a fait l'ensemble de la préparation avec le groupe. Et puis donc là, il rejoue à nouveau depuis le début. Alors début de saison, enfin le début 2020 a été assez mitigé pour le Zénith, qui a eu du mal à trouver en gros les filets, puisqu'ils ont fait deux matchs nuls 0-0. Et là en fait ce week-end ils se sont bien énervés, ils étaient à la maison, il y avait pas mal de monde d'ailleurs au Krestovski durant le match. Et donc ils en ont planté en effet 7 contre un club Oural qui est un petit peu...
Oural, c'est des montagnards. Hein.
Vincent, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'ai une petite question perso. Quand est-ce qu'on revoit Rémi Cabella avec le FC Krasnodar? C'était blessé tout de suite au début de sa préparation, donc on est autour là des... Ça fait à peu près 8 mois
Oui, tout à fait. Oui, 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 on espère le revoir le plus tôt possible. Je pense que normalement, avril, il devrait être de retour. En tout cas, il va faire énormément de bien à ce club de Krasnodar qui a besoin d'un milieu de terrain. Voilà, ils ont perdu d'ailleurs aujourd'hui. Et donc son retour est en effet très attendu. Oui.
Actuel troisième du championnat. Merci beaucoup Vincent Tanguy d'avoir été avec nous pour nous parler du football russe. C'est l'occasion, puisque les grands championnats sont à l'arrêt, de s'intéresser un petit peu aux Ciao, autres Vincent. Championnats. Là où
profite,
ça joue.
On va pas te rappeler de si tôt.
Encore. on va rejoindre Hussein qui est notre
Lui, c'est pareil, hein.
Spécialiste Turquie.
Lui, on l'appelle parce qu'il a toujours des histoires croustillantes. Mais profite bien mon petit Hussein pour nous vendre la Turquie, parce que ça va pas être demain la veille qu'on va revenir dessus.
Comment ça va, Hussein?
Ouais, bonsoir Timothée, bonsoir Pierre, bonsoir Daniel.
Salut Hussein, ça va?
Alors ça jouait aujourd'hui en Super League. Kayserispor a battu le Yeni Malatyaspor 2-1 malgré un but de l'Islandais, ça s'invente pas, Kjartansson. Trabzonspor a fait match nul face à Başakşehir, un but de Skrtel contre son camp et un but de Dembaba. Ça vous rappelle quelque chose, les Parisiens là?
Rien du tout. Hussein, est-ce qu'on pourrait commencer par un petit point des retraités du football qui sont dans ton championnat?
On en a pas mal, ouais, notamment dans les...
Je termine avec un des derbies de Galatasaray. Galatasaray, Beşiktaş 0-0. Ah. Un match, d'ailleurs, globalement, moyennasse. Tu l'as vu aussi?
Ben non, j'en ai vu qu'une période, la première. Ouais. Et effectivement, je me suis pas...
C'était pas un match à huis clos. C'est compliqué.
Ouais, en plus, ouais, carrément.
Hussein, justement, quelques histoires sur ce championnat turc.
Il en a trop. Oui,
comme je l'avais déjà expliqué, on a un niveau qui a encore baissé ces dernières années en raison des difficultés économiques, notamment des gros clubs, hein, qui sont tous suivis par le fair play financier. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros de dettes pour les gros clubs. D'ailleurs, pour l'anecdote, Fenerbahçe, l'année dernière, a lancé une cagnotte télévisée du type Téléthon pour récolter des fonds. Et du coup, pour combler une partie des dettes. Donc, ils ont quand même récolté 50 millions d'euros.
Les gens ont donné de l'argent à un genre de fonds qui a redistribué aux différents clubs.
Quand ton club est géré
comme ça. Ils ont eu l'aval de l'UEFA par rapport à ça, pour le fair play financier. L'UEFA a dit vous pouvez y aller, donc du coup ils ont lancé cette cagnotte.
Ouais, tiens, t'as raison, d'ailleurs c'est un peu étrange parce que c'est pas une rentrée classique d'argent, de sponsoring ou de...
Je sais pas, c'est ce qui a été communiqué par le club en tout cas.
Bah, j'imagine que si demain le PSG veut faire une cagnotte et que je sais pas, un émir veut abonder la cagnotte de quelques centaines de millions d'euros, il pourrait alors à ce moment-là. D'après jurisprudence.
Étonnant,
ouais, quand même.
Ouais.
Comment ils font pour payer les retraités alors?
J'ai du mal à comprendre. C'est vrai que des fois on entend qu'ils ont du mal à payer les salariés des clubs qui doivent gagner 500 ou 1000 euros par mois. Et en même temps, ils achètent des joueurs assez connus, hein, comme par exemple Mohamed Elneny à Beşiktaş, qui a été prêté par Arsenal. Vous avez beaucoup de joueurs, hein, qui sont passés par la L1. Du coup, c'est comme si on avait une Ligue 1 bis. Vous avez au moins 3 ou 4 joueurs dans chaque club. Bon, ça va de Jean-Michel Seri, Mario Lemina, Nkoudou, Mevlüt Erding.
Oh là là, Erding, il joue encore?
Erding, ouais, il joue plus beaucoup, il est remplaçant au Fener, mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a, malheureusement.
Et c'est quoi le niveau, c'est quoi le niveau des mecs, là, des anciens de Ligue 1 quand ils jouent là-bas? Tu les trouves bons ou pas bons? Par exemple, Seri à Nice, la première année qu'on le voit, et on l'aime bien, quoi.
Comment? Qui?
Seri, au début, on le trouvait bien.
Seri, Galatasaray a eu du mal, hein, en début de saison, vous l'avez vu, en Ligue des Champions. Après, ils ont tendance à bien finir les saisons, comme cette année, hein, ils avaient plus de 10 points de retard. Et depuis qu'ils n'ont plus la Coupe d'Europe, comme ils ont une équipe qui est un peu plus de qualité par rapport aux autres, je pense qu'ils vont peut-être repasser devant cette année aussi avec Fegouli qui avait fait la Coupe d'Afrique, donc il n'était pas en forme pour, il n'avait pas vraiment de vacances quoi pour démarrer la saison. Donc Fegouli, Seri, Mariano, Lemina, c'est quand même pas mal quoi. Falcao aussi qui revient.
C'est que des mecs qui sur le papier ont eu au moins à un moment un bon niveau quoi. C'est ça qui
ouais, oui. même au Fener, il y a des Dirar, bon, c'est des joueurs qui commencent à vieillir, hein, Isla.
Ça donne quoi, Isla, Luis Gustavo,
Isla,
là,
il a 45 ans, Isla.
Luis Gustavo au Fener, ça donne
quoi? 32-33. Bah, Gustavo, joue, même, bien qu'il ait 32-33 ans, c'est largement le meilleur, c'est ce que disent tous les, bah ouais, tous les supporters du Fener, c'est largement le meilleur joueur de Fener, mais malheureusement, le reste de l'équipe, c'est vraiment d'un niveau bas, quoi. Et du coup, ouais, malgré ça, on a un championnat assez serré, enfin, cette année. Il y a quelques semaines, on avait 7 clubs qui pouvaient prétendre au titre. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Donc, à ce niveau-là, c'est assez serré. Mais c'est vrai que le niveau est assez bas. Heureusement que Başakşehir a sauvé l'honneur en Coupe d'Europe. Hein. Vous savez qu'ils sont 16e, ouais, ils sont 16e de finale de l'Europa League, après avoir éliminé Mönchengladbach et le Sporting.
Ouais. Ce qui, en soi, sont quand même deux très bons résultats.
Oui, oui. Donc, bien qu'ils aient marqué deux fois dans les arrêts de jeu, ça ne fait pas jouer à grand-chose, mais c'est une équipe, en fait, qui n'a vraiment pas beaucoup de supporters, un peu comme, on va dire, le
oui,
Paris FC,
mais
par
le
exemple.
Le plus important des supporters en Turquie.
Oui, enfin...
C'est pas le club favori d'Erdogan.
Il y a trois clubs, en fait, qui sont proches de Erdogan dans le championnat turc.
S'il y a trois clubs, ça va, ça facilite un peu...
il peut surfer sur le meilleur du moment.
Voilà, du coup, à ce niveau-là, ouais, on a un championnat bien, enfin, assez intéressant à suivre au niveau du titre, vu qu'il y a quatre équipes qui peuvent prétendre au titre, mais bon, après le niveau de jeu, bien sûr, c'est pas ça.
Merci beaucoup, Hussein, d'avoir été avec nous. T'es évidemment le bienvenu dans l'After. T'es chez toi, évidemment. On va faire une petite pause et puis on reviendra vous parler notamment des championnats sud-américains. On a quelques anecdotes plutôt sympas. On sera avec Nicolas Cougo, qui est lui spécialiste du foot sud-américain. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h23, faites un vœu, on est de retour dans l'after jusqu'à minuit. Évidemment, on va continuer de vous parler des championnats où ça joue au football. C'est le cas notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans certains pays d'Amérique du Sud, pas tous. On reviendra également sur le top 3 des maillots qui vous ont le plus marqué, ceux que vous trouvez le plus beau. On va vous a posé la question évidemment sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et puis il y aura un petit quiz à la fin de cet after. Pour parler de l'Amérique du Sud, on est avec Nicolas Cougo, spécialiste du foot sud-américain. Salut Nicolas. Ou pas. Il est là, ça y est. Salut Nicolas.
Salut. Salut Nico.
Alors Nicolas, on continue à jouer. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a motivé le fait que certains pays continuent à jouer alors que le championnat colombien, par exemple, a s'est mis en pause?
Ouais, alors on a la plupart des championnats qui se sont mis en pause. En fait, on y va un petit peu pas à pas, on va dire, hein, dans chacun des championnats, parce que on parle beaucoup du coronavirus. L'Amérique du Sud est aussi violemment touchée par une épidémie de dingue. C'est l'une des plus violentes de l'histoire même. Je peux citer un chiffre, hein, par exemple, qui a été donné. Au Paraguay, on a déjà 46 morts à cause de la dingue. C'est en gros, pour l'instant, l'équivalent du nombre de morts sur l'ensemble de l'Amérique latine liée au coronavirus. Donc voilà, donc les pays vont pas à pas. On a des pays où ça joue, parce qu'on n'a pas encore véritablement soit mesuré la dangerosité du chose, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de cas, soit on est encore en train de se battre un petit peu pour savoir comment on va faire. Ça, c'est le cas de l'Argentine, par exemple. Mais petit à petit, on est en train d'arrêter. Hein. Dans la plupart des pays, on est en train d'arrêter. On est en train de jouer, entre guillemets, les derniers matchs chez ceux qui jouent.
On disait que le Mexique continuait à jouer. Le Mexique vient d'annoncer qu'il allait se suspendre. Quelques petites infos, quelques petites choses croustillantes à ressortir là des dernières journées qui se sont déroulées dans ces différents championnats.
Bah écoute, au niveau des différents championnats, bah le plus croustillant, c'est toujours le même, c'est l'Argentine, parce que ils sont en train de se mettre sur la tronche
pour le titre, ça.
Pour des raisons extra-sportives, on va dire, plus politique qu'autre chose. Le championnat s'est terminé la semaine dernière avec le titre de Boca, arraché de manière presque miraculeuse. Et on a une nouvelle compétition qui est censée terminer la saison et amener jusqu'à la Copa América, qui s'appelle la Copa de la Superliga. Et la première journée a débuté, sauf que River a décidé de ne pas se présenter, de faire mieux, même de fermer son stade. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un gamin des équipes de jeunes qui a... Il était suspecté d'être infecté par le coronavirus et donc le club ne savait pas trop et donc a préféré suivre les consignes de l'OMS, etc. et de mettre tout le monde en quarantaine, enfin de tout fermer. Et ça n'a pas plu à la Ligue. On est aussi dans un contexte politique, c'est-à-dire que, comme d'habitude en Argentine, on a des petites luttes d'intérêts entre... Il y a une réorganisation de la fédération et de la ce qu'on appelait la Superliga qui va peut-être disparaître. Donc il y a des petits conflits d'intérêts des uns des autres, des luttes d'influence. Et donc River se retrouve là, probablement devrait être sanctionné, la perte du match, perte de points... perte de, enfin, amende.
Nicolas, et faut quand même signaler que donc River a fermé son stade, ouais. mais a pas prévenu son adversaire, l'Atlético Tucumán.
C'est ce qu'il dit, ouais.
Les mecs se sont pointés et ont trouvé grille fermée, pas un supporter, pas un chat. Des trucs qui arrivent en district,
moyen.
Quoi.
Très moyen.
Ouais, ben enfin, c'est surtout qu'ils y sont allés alors que le communiqué du club de River avait été donné. Ils l'ont pas donné une heure avant le match. Hein. Ils l'ont annoncé la veille, hein, qu'ils ouvriraient pas, si je me rappelle bien.
Donc, ils sont présentés pour pas être mis en faute, plutôt.
C'est là où on entre dans le côté un petit peu politique de l'Argentine. Hein. C'est-à-dire que. Voilà, c'est River, tout le monde, il y a deux écoles maintenant. Il y a ceux qui disent que River a pris une décision solitaire, d'autres qui soutiennent un petit peu. On a vu même Maradona a soutenu River, c'est quand même assez incroyable dans sa position. Donc voilà, on est un petit peu divisé, mais là on est sur des luttes, on est sur des guéguerres politiques. Donc ça c'est le côté un peu croustillant. Après on a des championnats où ça joue, là, je vous cache pas que je suis devant un match chilien, hein. Ça joue plutôt sympa, on a eu un super but à l'instant, voilà, et ça joue, c'est les derniers matchs, on a un super match mexicain, là, pour en finir avec le foot, on va dire, latino, on a América Cruz Azul, c'est à 3h15, heure française. Mais comme on est en confinement, je pense que vous pouvez veiller. Donc, je vous le conseille.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tiens, une petite question. On sait que San Lorenzo est le club du pape, pape François. Est-ce que la popularité de ce club a bondi depuis que le nouveau pape est pape?
Ah, tu veux comment ça va en Argentine? Les mecs, ils ont leur club à la naissance. Hein. On bondit pas. Oui, bondit pas d'un coup comme ça. Hein.
Non, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu nais avec un club et tu meurs avec ce club.
Voilà. Donc c'est pas parce que tu sois le club du pape ou pas. Bah, tu découvres que c'est le club du pape, tu vas pas changer d'équipe pour ça. Hein.
Non, surtout qu'on est sur voilà, il y a c'est des les clubs sont très fortement identifiés.
Les taux de notoriété ils bougent pas en Argentine. Hein.
Non, on change pas, on change tout sauf le club.
Nicolas, quid du cas Ronaldinho?
Ouais, voilà, il est en prison, il fait des tournois de futsal avec les flics et ses collègues détenus, c'est un peu. Je sais pas si on doit en rire ou si on doit trouver ça un peu pathétique. Je pense que, personnellement.
Un peu pathétique, s'il est en taule, autant qu'il s'amuse, hein.
Voilà, c'est ça. Donc, ça fait aussi pas mal. Voilà, ça occupe un petit peu certains médias, pas mal de médias latinos et même les Paraguayens, puisqu'il est au Paraguay, hein. Concrètement, il a été pris avec des faux papiers. Donc,
on a que deux images de lui dans l'histoire en tôle et tout. T'as l'impression qu'il est dans un village de vacances.
Ouais, c'est ça. Il est au Club Med, le mec.
Regarde, en plus, derrière, ça fait un peu. T'as l'impression que la plage est loin derrière les arbres là-bas, là. T'as l'impression que le mec, il est en vacances.
C'est ça. Le mec, il est dans une prison.
Si tu sais pas, tu fais de la photo hors contexte. Tu dis le mec, il est en ayant.
Mais Nico, ça pue pour les 50 ans du PSG quand même, au mois d'août prochain, non?
Ah oui,
après, je sais pas combien de temps ils vont le garder. Hein.
Ah oui, c'est pour ça.
De toute façon, il a l'air de tellement s'amuser avec tout le monde qu'ils vont lui dire tiens,
on me souffle qu'en bas, à droite de la photo, là, à droite pour nous,
à droite.
C'est pas Iniesta?
Non mais c'est terrible, hein, c'est assez terrible, mais après ça fait une jolie pub pour les...
Et derrière lui là-haut, là, t'as Pierre Ducrot.
Oh non. Pardon.
Il fait l'échauffement là, derrière.
Non, c'est Jérôme Leroy. Non. Voilà.
C'est pas très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Nicolas, parle-nous aussi un petit peu de Gignac qui continue à cartonner avec son club au Mexique. L'histoire d'amour ne tourne pas court pour le coup.
Fait un moment quand même.
Ah oui, bah là, elle tournera jamais court. Il est carrément, il est très clairement. Après, c'est toujours difficile de faire ce genre de classement, mais il va être dans les meilleurs joueurs de l'histoire du club, quoi qu'il arrive maintenant. Donc, il a clairement marqué l'histoire de Tigres. Il continue d'écrire son histoire, même s'il est moins influent, hein, je dirais, dans le jeu. Il continue de marquer, hein, ça, d'accord. Il est un petit peu moins influent dans le jeu ces derniers temps. D'ailleurs, le club a un petit peu plus de mal au niveau du jeu ces derniers temps. Mais de toute façon, Gignac à Tigres, voilà, ça va rester. Dans 50 ans, il restera
le meilleur
joueur de l'histoire.
Une légende.
Du club. Ouais, clairement.
C'est le paradis, Nicolas, pour un joueur de foot d'aller jouer au Mexique. Je te pose la question parce qu'on avait vu cette interview de Kolodziejczak qui était passé lui aussi par les Tigres, si je dis pas d'erreur. En tout cas par le championnat mexicain qui regrettait d'être revenu en France. En tout cas, qui regrettait les ambiances, sa vie là-bas. En fait, il a vraiment adoré quoi.
Après Tigres, c'est particulier hein, parce que c'est le volcan, c'est un stade incroyable. Hein, c'est le stade le plus j'ai presque envie de. C'est marrant parce qu'il est pas au sud, mais c'est limite c'est là où il y a une vraie ambiance à la sud-américaine. C'est des stades, c'est un stade bouillant. On a un peu de tout hein, au Mexique au niveau des stades parce que on reste quand même en Amérique du Nord, donc on a des stades où l'ambiance est un petit peu plus nord-américaine. Mais Tigres, c'est particulier. Et oui, bah je comprends. C'est sûr que. Au niveau des ambiances, et puis il a joué des compétitions continentales. Gignac, il est arrivé, il a commencé par la Libertadores. Hein, l'un de ses premiers matchs, c'était la finale au Monumental face à River quand même. Hein, donc c'est pas l'un des premiers, mais c'est dans ses débuts. Donc forcément, quand tu fais une finale de Libertadores à River au Monumental, c'est sûr que derrière, je sais pas, je peux pas être méchant envers un club français, mais n'importe quel club français qui reçoit l'OM, c'est pas la même ambiance.
Ah oui. Merci beaucoup Nicolas Cougaud d'avoir été avec nous pour nous parler du foot sud-américain. Salut. Il y a effectivement encore la possibilité de regarder quelques matchs, comme je le dis depuis le début de l'émission, de football frais, de football en live, de football qui existe encore. On n'en est pas encore à se repasser des vieilles cassettes. On va enchaîner. Vous le savez, en cette période un petit peu particulière, il n'y a pas de match à débriefer, il y a des heures d'after à faire. On a décidé de vous donner un petit peu la parole, de vous laisser choisir. Vous allez sur le hashtag MonAfter et vous nous donnez vos idées de débat, vos idées de classement, vos idées de sujets. On les traitera petit à petit, les plus cohérents d'entre eux, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs en s'appuyant là-dessus, avec Jérôme Thomas, le producteur de cette émission, qu'on a décidé de vous donner la parole, à vous, auditeurs, à nous, ici en plateau, sur le top 3 des maillots qui vous ont le plus marqué. Alors, les plus beaux, les plus marquants, moi j'en ai un petit peu de chaque dans mon top 3. On va commencer avec toi, Pierre, avant d'accueillir Adèle, qui est supporter du Paris Saint-Germain.
Ah, il y en a au moins un qui va apprécier, je pense. Alors après, moi, c'est pas forcément les plus... Les plus beaux, c'est ceux qui.
C'est
qui...
pas forcément esthétique.
Voilà. Ouais, c'est pas que c'est esthétique. Alors ça le devient parce que forcément, quand tu aimes un maillot, après tu l'aimes esthétiquement, mais c'est parce qu'il me rappelle quelque chose forcément. Alors je sais pas si vous avez déjà fait un classement et si je dois aller dans cet ordre-là, mais j'avais forcément un maillot du Paris Saint-Germain. Alors j'aurais pu en prendre quelques-uns, mais j'ai choisi le PSG RTL. Voilà, Suzik, Toko, c'est cette période-là avec cette finale de Coupe de France contre Nantes. Alors c'est pas celui-là, c'est plus le blanc, avec les deux.
Celui-là de ce match-là, c'est quand même un chef-d'œuvre ce maillot-là.
C'est magnifique aussi. C'est pour ça que j'aurais pu en prendre plusieurs. J'aurais même pu en prendre d'autres un peu plus récents.
C'est un match de 83. C'était donc un match de Coupe des Coupes.
C'est ça.
Que le PSG joue.
Effectivement, le maillot qu'on voit, c'est le maillot RTL avec une énorme bande rouge dans l'axe, deux liserés blancs et le reste du maillot. Alors
celui que j'avais, c'est celui qui est refait maintenant cette année, le troisième maillot blanc ou le deuxième, je ne sais plus cette année. Là. Mais c'est plus celui-là, c'est la finale contre Nantes.
Et ce match-là, ce n'est pas le match aller au parc, hein, c'est le match au Stadio Comunale.
Non, là-bas, c'est là-bas, ça.
C'est le match là-bas. Et cette année-là, Juve ira au bout et gagnera la Coupe des Coupes.
Ce qui est intéressant, c'est que
il gagne la Coupe des Coupes et le PSG fait 2-2 au parc et 0-0 là-bas.
Et ce maillot Ariston avec Michel Platini, etc. C'est mon deuxième maillot club que j'adorais.
Ce maillot-là,
j'en avais mis trois. J'avais mis celui-là et j'avais mis celui de Saint-Étienne, Timothée, KB Jardin.
Ah, le KB Jardin.
Et ça, c'est parce que ça avait une petite valeur pour moi. Ça a été mon premier maillot de foot en fait.
Quand j'ai acheté. KB Jardin. Mais à l'époque, tu savais pas ce que c'était KB Jardin. C'était un produit pour le jardin.
Non, il y a une explication, c'est que mes premières années football, c'est à Saint-Olomone, à la SSOA. On joue en vert. Oui, tu fais pas attention quand t'es petite manière. Mais on joue en vert, et moi je voulais un maillot vert comme celui de mon club. Et le premier magasin de sport où je vais, c'est un maillot de Saint-Etienne, KB Jardin. Et après, l'air de rien, ça m'a quand même tenu longtemps.
Ce qui est marrant, c'est sur les maillots du Paris Saint-Germain. On va te demander ton avis, évidemment, Daniel. Mais c'est que moi, qui suis né à Saint-Etienne, qui ai grandi avec des maillots des verts exclusivement. Pour moi, le plus représentatif, c'était le Tourtel.
PSG. parce qu'il y a des résultats, c'est la grande épopée. Ça va avec ça. Mais moi, le PSG, j'aurais pu en mettre quelques-uns, forcément, étant
le Tourtel, il était moche en plus.
Ouais, mais c'est pas que esthétique, c'est ce qu'ils ont fait avec.
C'est ce
qu'ils ont fait avec.
Toi, ton maillot du PSG préféré, j'imagine que dans ton classement, il y en avait peut-être un, non ? Pas nécessairement ?
Bah, celui qu'on a vu là, le maillot d'Echter. Oui, c'est vrai. Moi, après, la vérité, les maillots... moi, j'ai jamais été collectionneur de maillots. J'ai jamais été grand fan de maillots. Pour moi, le maillot, il fallait qu'il représente quelque chose. Il fallait qu'il soit lié à une équipe que je supportais. Parce que si c'est pour parler de l'esthétisme... Bah non, l'esthétisme du maillot, justement.
C'est ce qu'on se dit.
Moi, il y en a mille.
Le tourtel, c'est effectivement
moi,
pas bon.
Moi, il y en a mille que j'ai trouvé beau. Machin, toi, etc. Par exemple, là, Mousse Daleb avec ce maillot du PSG, bon, c'est un maillot qui est un chef-d'œuvre parce qu'il est créé par Hachter, qui est quand même à l'époque un grand créateur de mode. C'est un vrai super beau maillot. Donc, si on doit parler juste de l'esthétisme des maillots, je l'avais dit une fois ici, moi, le blanc Panasonic de l'OM, je le trouvais magnifique. Celui de Milan, époque Van Basten, les bandes un peu larges, magnifique. Le maillot de l'Inter a très souvent été sublime. Les maillots italiens, en termes d'esthétisme, ont souvent dominé.
Avant, oui.
Ils étaient souvent, quand ils étaient en coton et tout, ils étaient absolument
plus
sublimes.
Plus avant que maintenant.
Voilà. Donc il y en avait plein, pardon, ceux des équipes anglaises un peu moins aussi. Je l'ai trouvé moins
quand même de la radio, on vient de voir passer le JVC d'Arsenal,
c'est plus lié à une époque, tu vois, avec un truc un peu particulier dessus. Oui, le JVC Arsenal ou le Sharp Manchester. En plus, souvent tu avais le sponsor qu'elle est avec,
on va voir Boca Junior, c'est peut-être un des plus beaux.
Ouais,
sauf que moi j'ai plus de mal à l'identifier, enfin à le
esthétiquement, là, en parlant purement d'esthétique.
Ouais, esthétiquement, il y en a plein qui sont beaux. Il y en a plein qui sont
beaux, mais encore une fois, je pense que si un global, ceux du championnat d'Italie étaient les plus beaux, c'était les en termes de couleurs. Que ce soit celui de la Roma, un peu rouge très foncé, Juve, mais même tous les maillots trois bandes, Inter, Milan, ils étaient beaux. Mais à la limite, ça, on peut tous les trouver beaux. Le maillot. Il faut qu'il te fasse des frissons pour quelque chose de précis, soit parce que c'est le premier qu'on t'a acheté, soit parce qu'il signifie quelque chose par rapport
parce
à ton club.
Parce que c'est une équipe que t'as suivi et que t'as aimé et qui t'a fait vibrer, bien sûr.
Du coup, Daniel, ton top 3, moi, le premier... en sortant l'esthétisme du classement.
En plus, il était beau, donc j'étais content. Le tout premier, alors bon, après, c'est tout le paradoxe des histoires personnelles et des binationaux, des histoires. Bah, le premier qu'on m'offre, c'est en 78, c'est le maillot de l'Italie. Donc, celui de la Coupe du Monde 78. Mais il n'empêche que le France-Italie du premier tour avec le but de Lacombe à la 38e, là on le voit sur l'écran, c'est celui-là, il est quand même magnifique.
Voilà, donc pour décrire, avec c'est le maillot effectivement
d'un bleu d'une pureté extraordinaire.
Pas de sponsor, d'un bleu profond.
Voilà, avec
le col un peu comme ça, non mais il était d'une élégance. Sauf que moi, le France-Italie qui est le premier match de la Coupe du Monde des Bleus, limite je pleure parce que je suis plus pour l'équipe de France. Mais après, je pars en vacances et on me dit, mais pourquoi t'as pleuré, t'es con quoi. T'es avec nous en vrai. Et tu sais pas, enfin bon, tous les nationaux connaissent ce genre d'histoire là. Donc je sais, tu vois, en plus t'as 8 ans, t'as le cul entre deux chaises, t'es avec ta famille, on te dit, mais non, mais il fallait pas pleurer, mais si, mais moi je suis pour la France, je suis pas pour. Bon, voilà, ça c'est tout l'histoire de mon enfance, ça. Et après le 86 des Bleus, celui-là je l'adore. Je l'adore, alors que j'ai peut-être. Là, j'allais dire plus d'émotions en 82, je sais pas, parce que le France-Brésil de 86 est tellement fantastique.
Moi, si j'en avais choisi un
maillot
de France,
bleu avec une petite manche comme ça, je le trouve beau.
Moi, ça aurait été 84 et donc 90.
Eh ben non, 84, c'est l'Euro, parce que faut savoir que moi, petit et ado, je pleurais tout le temps devant les matchs. Donc même à 14 ans, je continue à pleurer. France-Portugal,
même aujourd'hui,
je chiale encore.
Tu peux plus le dire, mais même aujourd'hui.
Non, maintenant, non.
Parfois, devant le match du Chili, là, tout à l'heure, on sait très bien.
Et celui de 84, bizarrement, je le trouvais beau, mais bon, je préfère. C'est vrai, celui-là, de 86. Alors que j'ai eu plus d'émotions.
J'aime les deux, mais moi, 84,
c'est... j'ai chialé quand un môme, quoi.
Ah oui.
Enfin, j'ai chialé avant le 3-2. J'ai chialé au 2-1, au deuxième but de Jardo.
Messieurs, on va accueillir Adèle.
Une fois, j'ai chialé avec un match de ton équipe, toi.
Bonsoir tout le monde.
Attends. Je viens d'avoir une information importante, Adèle. Je te mets en toute petite pause. Tu as pleuré devant quel match de Saint-Étienne?
C'est moi, quand j'étais
Daniel.
Petit, je t'ai dit, jusqu'à 14 ans, je pleurais très souvent devant les matchs. Et 77, Saint-Étienne-Reims, finale de Coupe de France.
T'étais pour les Verts?
Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait une autre équipe que Saint-Etienne qui joue au foot. Donc, Reims, en plus, qui se goûte ce truc, on s'en fout, quoi. Et quand ça doit être l'attaquant de Reims qui égalise, ça doit être Santa Maria qui égalise, je pleure. Je dis, oh non, Saint-Etienne, ils vont pas gagner. Puis finalement, ils gagnent 2-1.
Tu m'as dit qui avait égalisé?
Pas Santa Maria, l'attaquant de Reims qui marque.
Non, c'est un milieu de terrain d'Angers, ça, Baptiste Santa Maria.
Regarde la finale 77, c'est un nom sud-américain. Le mec qui marque pour Reims, 77, la finale de la Coupe de France.
Ah, je peux pas vous aider.
C'est, ça doit être Christian Lopez et ça doit être Mercadier qui doit marquer les, ça, ça doit être les deux buteurs des Verts et celui de Reims. Il a pas ça, Jérôme, sous la main. Toi, tu dois connaître.
Il va nous trouver
ton club,
ça.
Merde.
Ah oui, oui. Après, je connais pas tous les buteurs de tous les matchs.
Et bah, au but de Reims, au but de Reins, chiale comme une peu. Ouais, en même temps, j'ai 7 ans. Bah. J'ai le droit à ce moment-là.
Non, mais t'as le droit de pleurer pour Saint-Etienne, ça y a aucun. Ouais.
Pour ton club, hein, ton club m'a fait de la peine hein, quand j'étais petit.
Il y avait effectivement Santa Maria.
Ah, il a marqué.
Bravo.
C'est lui qui marque. Et Santiago, les deux buteurs des Verts, c'est pas Lopez de la tête.
Et les buteurs des Verts, on va me les souffler. En attendant,
Lopez
on va accueillir.
Lopez et Mercadier, non
Battenay et Mercadier.
Hein
Battenay et Mercadier.
Battenay qui marque
Battenay sur penalty. Et Mercadier.
Je suis sûr que c'est Lopez.
Absolument.
Bon, mais Mercadier, je l'avais, c'est le but de 2-1. Mercadier.
On va accueillir Adèle, 37 ans, supporter du Paris Saint-Germain.
Salut Adèle.
Salut, ton top 3, Adèle.
Bon, alors d'abord, excuse-moi, avant de commencer mon top 3, je vais simplement dire à Daniel qu'on s'est fait rouler dans la farine, c'était quand c'était, je sais plus, c'était vendredi, pour le quiz. La prochaine fois, exige ton droit de retrait. Daniel.
Ouais, mais c'est qui? C'est Gilbert. Alors, écoute, c'est Gilbert qui t'a roulé.
Écoute, Adèle, je préfère ne pas revenir sur cet épisode.
Oui,
qui
je
est,
savais que ça allait
c'est Gilbert qui quelque vous a chose, roulé. Qui est quelque chose qui ressemble à un mélange Gilbert, de Byron ouais. Moreno 2002. Ouais, bah,
si Gilbert vous a roulé, c'est comme ça tous les soirs.
Et
oui, c'est comme ça.
Non, mais là, je pense qu'on a atteint.
Moi, j'ai fait deux quiz avec vous les deux fois, Gilbert m'a
roulé. Là, on a atteint des limites. Là, on a atteint des limites. Je pense qu'Adèle, je pense qu'on a dépassé, on a explosé toutes les limites possibles.
On est plus surpris, Adèle.
Mais c'est pas grave, j'ai quand même gagné le ballon. Bon alors je vais commencer. Alors moi je précise bien que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je vais mettre un tas de Parisiens à dos. Mais attendez, quand je dis mon top 3, là je vais commencer par on va dire, c'est un ordre chronologique. Alors en troisième position, je mets le maillot de Marseille 93, celui avec les trois bandes, le blanc et bleu ciel.
Et ben tu vois, celui-là c'est bizarre parce que celui-là esthétiquement je le trouvais vraiment très moche. Cette espèce de brillant et oversize, je le trouvais moche.
Moi, on en revient, Adèle, à ce qu'on expliquait avant. Moi, pour moi, un maillot, faut qu'il me donne des sensations, des frissons, des...
Non, moi, je peux dire qu'il est,
mais tu vois, moi, j'y arrive pas.
Le Panasonic, j'ai toujours trouvé très, très beau, mais celui-là, je trouvais moche.
Non, mais il va être beau, mais...
Alors, regarde, celui de Milan de 93, il est beau, les rayures sont belles.
Ah, il est beau.
Mais là, celui-là.
Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai pas dit que c'était le plus beau.
C'est ce qui représente pour toi.
Qui nous ont marqué. Alors, pourquoi il m'a marqué? Parce que moi, en 93, je devais avoir 9-10 ans. J'étais gamin. La seule équipe qu'on voyait à la télé, c'était l'Olympique de Marseille. Bon, et c'est le Paris Saint-Germain, un peu moins, mais l'Olympique de Marseille par rapport à...
Bah, le PSG, pour les voir à l'époque, il fallait avoir Canal. Et tout le monde n'avait pas Canal.
J'avais pas. Bah, Canal, j'ai dû attendre mes 25 ans ou 30 ans.
Eh oui, parce que, comme tu... Non, mais c'est...
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir aussi. C'est la façon dont, à une époque, parce que la France a eu un retard en culture foot assez important, les gens ont tout... En fait, l'histoire d'Adèle, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Les gens ont d'abord été tous pour Saint-Etienne, ont tous été ensuite pour Bordeaux dans les années 80 au moment de leurs aventures européennes.
Pour les matchs qui passaient sur TF1.
Un peu pour Monaco quand ils avaient le machin. Pour l'OM, en grande majorité. Mais non, et pour le PSG. Et en fait, la cassure s'est faite à ce moment-là où il y a eu les gens ont plus aidé avec l'OM. Mais il faut savoir, le PSG, c'était Canal. Canal, ça représentait de l'argent d'avoir Canal. Et il y a plein de gens qui ne pouvaient pas se payer Canal. Et l'OM était diffusé par TF1. Et ça a vachement joué dans la répartition. Eh ben parce que nous, on n'a pas eu une culture foot en France où il y avait une transmission père-fils comme dans d'autres pays. Ça s'est pas fait beaucoup, ou majoritairement comme ça dans notre pays, contrairement à l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont supporté des clubs comme ça. Ben regarde, moi, le premier match du PSG qui passe à la télé, c'est quand même 82, finale de la Coupe de France, le PSG Saint-Etienne dont on a parlé récemment. Et là, il a raison, Adèle. Le PSG à la télé, pour les voir, si t'avais pas Canal, tu les voyais jamais, quoi.
Non mais attends Daniel, je peux pas te laisser dire que j'ai été pour l'OM. Non.
Bah je t'ai pas dit que t'étais pour l'OM. Non, je t'ai dit que beaucoup de personnes étaient pour l'OM aussi parce qu'ils les voyaient à la télé, voilà.
Alors pourquoi d'autre aussi Daniel, un truc tout bête mais comme je t'ai dit, j'étais gamin, mais il y avait quoi qui passait à la télé, on était tous fans. Olivier Tom. Et le maillot il était comment? Blanc bleu ciel, donc je m'y reconnaissais un petit peu. Après, je me suis fait une culture foot, j'ai commencé à grandir un petit peu, j'ai commencé à regarder un peu plus de matchs à la télé, je me suis inscrit au foot. Et donc là, moi, mon père, il s'en foutait complètement du foot, mes grands frères aussi. Donc, comme tu dis, Daniel, j'ai pas vraiment eu
d'éducation. Bah oui.
Tu sais,
t'as pas eu transmission là-dessus?
J'en ai eu aucune.
Alors, donc, Adèle, tes deux autres maillots?
Les deux autres maillots, alors c'est l'Inter de Milan, 96. Parce que tu sais, le maillot gris.
Gris et noir, ouais. Pas tout
à fait. Ah oui, d'accord.
J'ai trouvé magnifique.
Parce que Ronaldo, parce que Ronaldo
aussi, voilà. Ouais, les belles années de Ronaldo,
Ronaldo,
effectivement.
Ils avaient battu aussi le Strasbourg de Zitelli et tout ça et compagnie. Ouais. Et bah le top 1, bah le meilleur, c'est celui du Paris Saint-Germain 96, parce que c'est le premier maillot que j'ai eu. Je me rappelle, je m'étais à l'entraînement, j'étais tout fier. C'est le maillot quand ils font le 5-0 contre le SPUA Bucarest.
Ouais.
Cette saison-là. Bah celui-là, c'est celui que j'ai préféré. Après, comme disait tout à l'heure à Adrien au standard, j'ai un petit joker.
Vas-y.
C'est le maillot d'Italie 94. Il était magnifique. Et celui-là, il me rappelle vraiment mon premier match de foot. Enfin, c'était la finale de Coupe du Monde 94. C'était la première Coupe du Monde que je suivais. Et c'est le premier match dont je me rappelle réellement. C'était les matchs de l'Italie et la finale contre le Brésil. Celui-là, c'est...
L'Italie-Brésil au Rose Bowl de Pasadena.
C'est vrai que c'est souvent... les maillots italiens, c'est souvent une franche réussite la plupart du temps. Merci beaucoup, Adèle, d'avoir
été... Pourtant, celui de 94 l'a marqué, mais d'un point de vue esthétique, c'était loin d'être un des plus beaux.
Ciao, Adèle.
Ciao, Adèle.
Merci beaucoup. Alors, sur le hashtag RMC Live, on nous parle beaucoup du maillot de Manchester United 99. Le col relevé de Campo. Nantes 95.
Ouais,
parce qu'ils sont, mais c'est pas esthétique.
C'est le problème, c'est ce jaune-là a jamais été. Et à la limite, celui des 70s avec le Europe 1 là au milieu, tout jaune.
Et on me parle aussi du maillot rouge de l'équipe de France. Vous vous souvenez de ce maillot rouge? Moi, il m'avait marqué parce que Gomis avait marqué à l'époque deux fois sous ce maillot rouge.
Ils avaient joué contre le Paraguay.
Ouais, absolument, à Grenoble. Maillot rouge qui était assez élégant.
Il me semble avoir vu.
Moi, un maillot de l'équipe de France rouge.
Ouais. Il y a un petit problème. Je vous donne mon top 3 avant de passer au quiz. Moi, j'avais noté un maillot de la SS, forcément, et le casino. C'est celui qui m'a le plus marqué. Ah, le gros rond rouge. Le gros rond rouge sur le ventre. Oui, mais là aussi, il y a une part affective. C'est les années Joseph-Antoine Bell et autres. Le maillot noir de Liverpool, parce qu'il se trouve que moi, je suis collectionneur de maillots. J'en ai beaucoup que j'achète pour la plupart. Puis j'en ai quelques-uns qui sont donnés. Et le maillot noir de Liverpool, moi aussi, j'ai un peu un problème avec.
Alors moi, je t'avoue que si le maillot n'a pas la vraie couleur, pour moi, il vaut rien.
Alors manche longue, il doit avoir les vraies couleurs. C'est celui de Fernando Torres. Et puis je terminerai parce que les sponsors ont leur importance sur le maillot away de la Fiorentina 96-97. À l'époque, le sponsor c'était Nintendo et en dessous il y avait un énorme Mario, mais carrément dessiné sur le ventre. Ouais, voilà, oui. c'était osé, c'était une autre.
Tu devais être content avec ça. Tu étais petit, ça devait te faire plaisir.
Une autre
paire. T'as fait ton top 3 des maillots les plus moches, non là,
non, tu rigoles.
Il est calme. Le casino, il est horrible. Le Nintendo est horrible.
Mais il est joli le Nintendo.
Et entre les deux, tu nous as donné quoi entre les deux?
Il est original.
C'est quoi le deuxième?
Le Liverpool noir de Torres, il est.
Oh ouais, non, même celui-là, le noir Liverpool.
On revient dans un instant pour le quiz de l'after.
Celui de Liverpool, c'est celui de 77 contre Saint-Etienne d'ailleurs.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
23h50, c'est la dernière ligne droite de l'after. On va rapidement faire un petit quiz. Pardon, je crois que c'est bien dire. De l'after, on va faire un petit quiz avec vous. On a deux auditeurs qui nous ont rejoints pour jouer. On vous rappelle simplement que demain, notre grille de programme ne sera pas modifiée. Vous retrouverez évidemment le SMS, Team Duga, Breaking Foot et puis l'after. Et justement, si vous voulez aborder certains sujets, vous allez sur le hashtag Mon After et vous donnez vos idées, vos envies de sujets pour l'émission de demain et celles à venir. On accueille tout de suite Adrien qui est étudiant et supporter de l'Olympique Lyonnais et Arthur, 19 ans, supporter du Paris Saint-Germain. Salut messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir les gars.
Arthur, tu es le plus âgé des deux, pas de beaucoup. Tu veux jouer avec qui?
Moi, comme la dernière fois, avec Daniel.
Allez, Arthur, Daniel.
T'avais gagné avec Daniel?
Oui.
Et
bon, t'as bien fait alors.
Et notre équipe, ce sera
même pas quoi, moi.
Adrien et Pierre. Donc
on va donner le max, Adrien. Je te promets rien, mais on va donner le max.
T'inquiète.
Alors, messieurs, on va commencer et je vous rappelle, chers auditeurs, vous me donnez d'abord votre prénom avant de répondre, sinon je peux pas attribuer les points. On va commencer avec un qui a pas dit. C'est quelque chose, une déclaration qu'un joueur n'a jamais dit, mais qu'il aurait peut-être.
Joueur obligatoirement.
Qui a pas dit.
C'est un joueur obligatoirement.
Joueur. Oui. En l'occurrence, ce sont des joueurs. Oui.
Ok.
J'ai peut-être fait le meilleur match de ma carrière. Oui, j'ai encore le niveau pour rejouer dans les plus grands clubs européens. On se pose beaucoup de questions, Adil Rami. Mon frère. Adrien ?
Non, c'est moi qui ai dit Adil Rami.
Non. On se pose beaucoup de questions, moi et mon frère, mais d'un autre côté, l'ambiance est magnifique ici. C'est vraiment l'endroit où j'arrive le mieux à exprimer mon football. Si je prends perpète, ce sera pas un drame. J'ai déconné.
Ronaldinho.
Voilà, Sarr. Alors là, je suis désolé, je pense devoir accorder un point parce qu'il y a vraiment eu
un concert entre Daniel et Pierre. Je vais vous donner un point chacun. Je suis généreux, ça a permis de chauffer tout le monde.
Mais c'est pas l'auditeur qui l'a dit en premier?
Ah, j'ai dit aussi.
Je crois qu'il y a. Enfin, moi, j'ai dans l'oreillette, j'ai eu tout le monde en même temps. Ça a été assez synchrone. On va partir sur un.
Ouais, tu vois ça, par exemple, avec Gilbert, ce serait sûrement mal passé.
Mmh. Oui, mais c'est la différence.
Ah ouais, c'est la différence. C'est la grosse différence.
C'est un acteur apaisé.
Exactement.
Voilà. On va faire un kick-away ici, messieurs. Kick-away ici. Je vous donne des clubs. Vous me dites qui a joué en question. Quel joueur a fait ces clubs en question. Nice. Marseille, Saint-Étienne, PSG, Nantes.
Merde, non. Non, je te dis des bêtises.
Nice, Marseille, Saint-Étienne, PSG et Nantes.
C'est dans l'ordre de sa carrière?
Non.
En l'occurrence, c'est dans l'ordre, oui.
Donc Nice,
c'est un gardien de but.
Nice. Landreau.
Non.
Je raconte. Marseille.
Non, il n'a pas joué à Marseille.
Il y a Saint-Étienne. Nice, Marseille, Saint-Etienne.
C'est plus vieux que ça alors.
PSG, Nantes.
Alonso,
bonne réponse.
Jérôme Alonso, évidemment. Nantes.
Ah oui, putain. Non, moi c'est Marseille que je.
À Marseille, beaucoup.
Un point de plus pour l'équipe. Marquant, Arthur,
c'est Nantes que j'avais du mal.
Daniel, un autre kick-away ici. Le Plastica Nitra. Saint-Etienne. Bastia. Duisbourg. Le Celtic Glasgow. Et enfin. Ouais, bravo. Lubomir Moravčík, bravo. J'avais terminé avec le club japonais United. Ishihara, bravo Daniel. Félicitations, quel talent.
2-1.
Là, on est à 3-1.
Ah,
on est à 3-1, bien
pardon,
essayé.
Pardon.
Bien essayé. Tu le savais pertinemment, mais c'est bien essayé. Là, je vais carrément vous donner une liste longue comme le bras. C'est un joueur qui a donc été ce qu'on appelle un genre de mercenaire.
Xavier Gravelaine.
Mais toujours passé par Saint-Etienne, évidemment.
C'est la thématique pour lui.
Alors, le FC Porto, Tottenham, Saint-Etienne, le Panathinaikos, le Sporting Portugal,
Assou Ekoto.
Non, le Real Saragosse, Valence, la Lazio, le Deportivo La Coruña, l'Atlético Kolkata, c'est en Inde. Rio Ave.
Sinon un Pongol.
Non, l'idée était bonne. L'idée était bonne. Je vous le refais, il a commencé à Porto, c'est un indice. Porto, Tottenham, Saint-Etienne, Panathinaikos, Porto.
Machado.
Non, pas Machado.
Postiga.
Postiga, quel talent, Daniel. Là, franchement, bravo. Franchement, bravo, on s'incline parce que.
Bien joué, Daniel. Ouais,
non, mais on connaît, mais une fois que c'est dit, quoi, c'est plus facile.
Ça fait 4-1, messieurs. On va passer à la question suivante. Qui qu'en dit plus. Voilà, vous devez estimer un nombre de joueurs que vous êtes capable de donner. On va jouer tous les quatre. Hein, et puis si l'un d'entre vous n'aura pas faire de questions auditeurs en fait parce que c'est trop facile à chercher sur le web. Donc seul joue pour cette question.
Il peut jouer avec nous quand même. Mais fais confiance un petit peu.
Donc je vais vous demander de me citer une liste de joueurs russes ayant joué en D1 ou en Ligue 1.
Oh.
Voilà. Combien est-ce que tu peux m'en dire, Daniel?
Ouais, mais déjà, Daniel, il a une feuille et un stylo. Moi, je vais prendre mes notes.
Je te donne une feuille et un stylo.
Deux.
Un stabilo, on appelle ça.
Est-ce que tu dis mieux?
Ah, putain.
Pierre.
Trois. Ah, non, t'as dit deux. T'as dit deux. Commence pas comme. Oh la vache.
Ah, lance-toi.
Ah non, ça va être dur. Des Russes.
Des Russes, qui dit 3?
Adrien, t'en as 3 toi?
Il joue pas lui, t'as dit.
Il joue avec nous quand même.
Tu dis 4?
Fais leur confiance.
Est-ce que tu dis 4? Les auditeurs
jouent pas là. 3, ça suffit, puisqu'il a dit 2. Je vais pas me foutre dedans avec un 4.
Donc tu dis 3. Est-ce que tu dis 4, Daniel?
Je dis 5.
Il dit 5, Daniel. Est-ce que tu dis 6?
Non, je laisse Daniel.
Alors allons-y, Daniel.
T'es sûr que c'est des Russes, attention.
Igor Yanovsky.
C'est bon.
Sergei Semak.
C'est bon.
Smertin à Bordeaux.
C'est bon.
Golovin qui est à Monaco.
C'est bon.
Et le dernier qui était à l'OM, Sitchev.
Bravo, Dimitri Sitchev, effectivement.
Mais bravo.
Alors, franchement, t'as trouvé, ça n'enlève rien à ton talent.
On est bien d'accord. Plus facile.
T'as trouvé les plus faciles parce que derrière c'était vraiment pas simple. Igor Dobrovolski
à l'OM. Dobrovolski, bien sûr.
Alexander Mostovoy tout de même.
Oui, Mostovoy
et Strasbourg.
Putain, oui.
Richkov, Lens, Kidiatuline, Toulouse, Montauban, ouais. Alexander Panov à Marseille.
Et à Nancy, qui était ensuite allé à la Juve, qui était un très bon joueur en sélection dans le club.
J'en ai pas de Nancy.
Mais si,
Dimitri Ananko.
Sacha Zavarov. Non. Si, c'est lui qui a joué.
Bah, il devait pas l'être parce que Jérôme Thomas ne se trompe jamais. Et je vous donne Ruslan Pimenov de Metz. Voilà. En tout cas, un nouveau point pour Daniel. Ça ressemble à
Adrien, je suis désolé. Mais...
On va faire une toute dernière.
Mais on n'est pas obligé.
Zavarov, il était ukrainien.
Tu remets tout en jeu, Daniel, sur la dernière.
Messieurs, Daniel, je vais vous demander.
Bah, je crois pas en fait.
De nous donner la composition, joueur. Les 22 acteurs d'un match de légende. Et parce qu'on ne sait pas quand est-ce que va reprendre la Ligue 1, je vais vous demander de me citer chacun à votre tour un joueur qui a participé au déjà fameux Lille-Lyon du 8 mars dernier. C'était un match de légende parce que c'est le dernier match de Ligue 1. Il y avait 28 joueurs au total qui ont participé à ce match, 22 titulaires, 6 remplaçants. Je vous écoute, on va commencer avec Daniel.
Mike Maignan.
Ok, on continue avec Pierre.
Toko Ekambi.
Redis-moi.
Non, il était pas. Arrêtez quand même.
Redis-moi.
Toko Ekambi.
Toko Ekambi.
Il y en a qu'un.
C'est bon.
Ouais, il m'a fait peur.
Arthur,
la manière dont tu m'as regardé.
Moussa Dembélé.
C'est bon. Adrien.
Joachim Andersen.
C'est bon. Daniel.
Renato Sanchez.
Je vois pas d'ici, il cache sa feuille. Oh.
Renato Sanchez, c'est bon.
Lopez,
c'est bon. Arthur.
Loïc Rémy.
Bah, l'auditeur, bon. Il peut être devant Internet.
Oui, mais justement, ils font les premiers tours et après.
C'est à qui là?
Adrien.
Adrien.
Osimhen, ouais, ça marche. Auditeur, c'est fini. On passe à un duel entre Daniel
c'est
et
moche.
Pierre.
C'est moche.
Daniel.
C'est à moi, là?
Ouais.
Dembélé, il a dit. Toko Ekambi, il a dit.
Dembélé,
José Fonte. Dembélé, il a dit.
José Fonte, ça marche.
Guimarães.
Ça marche. Daniel.
Koné.
Ça marche.
Pierre. Bamba.
Bamba, ça marche. Daniel.
Benjamin André.
Ah, bien joué.
Ça marche.
Rémi a été dit ou pas?
Ah, bah ça, on peut pas le dire. Si ça a été dit, il fallait suivre.
Rémi.
Première erreur.
Aïe!
Eh, il a déjà été dit par un de nos.
Tu continues pas à jouer là-dessus.
Ça a été dit, c'est dommage. C'est une déculottée. Alors,
c'est l'eau, c'est l'eau.
Bravo, ouais, Arthur, on t'envoie un t-shirt de l'after. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée.
Et le RMC Poker Show est là. Malgré les événements, il est là. Peut-être pour la dernière de l'année.
Et là, effectivement, tous les shows sports seront là demain. Le SMS, le Super Moscato Show, Team Duga, Breaking Foot, l'after. Vous restez évidemment. On reste avec vous tout simplement sur RMC. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée et n'oubliez pas ce que disait Bill Shankly, le football c'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything. From city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.